juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler avec un triathlète pro d'un sacré niveau, mais pas que d'un point de vue sportif. Aussi, on en parlait justement en off, d'un point de vue études, qu'il a un peu laissé de côté pour l'instant. Mais bon, les études, c'est comme le vélo, ça s'oublie jamais. Hein. Enfin bref, je suis très heureux de tendre le micro à Victor Lemasson. Salut Victor.
Salut Armano, ça roule ?
Non, moi ça roule plus parce que j'ai laissé le vélo de côté. C'est à toi qu'il faut poser la question. Mais si tu me demandes si ça va, oui, ça va. Et toi ?
Ouais, bah nickel. Là, le soleil est revenu à Brest, donc... Ça fait plaisir.
Ouais, c'est ce qu'on en disait en off. Je comprends mieux où est parti mon soleil qui était à Castres. Bah, il n'y est plus. Donc maintenant, je sais. Il est remonté vers Brest, c'est ça?
Ouais. J'espère qu'il va y rester.
Non, faut partager. Faut être dans le partage. Il faut pas hésiter à en envoyer. Et puis à Brest, vous en avez déjà assez avec une journée de temps en temps, non? Bon allez, j'arrête mes bêtises. C'était pour détendre un peu l'atmosphère parce que on a fait 10 minutes en off. Tu te détendais au fur et à mesure. Là, depuis qu'on a dit qu'on enregistrait, je te sens un peu tendu, là, un peu serré, non?
C'est le fait d'avoir mis les écouteurs et de moins bien m'entendre, tu vois.
Bon, si tu veux, tu mets juste un écouteur, hein, tu t'entendras bien aussi.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas bête. On peut faire comme ça.
Ouais. T'as vu, j'ai pas fait d'études d'ingé, mais j'essaye d'être.
Mais du coup, moi je t'entends moins bien. Mais vas-y, on va quand même essayer de.
Ça va.
On va essayer comme ça, ça va le faire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand t'es parti, tu vois, moi je pensais que la phrase que tu disais au début c'était un truc que t'enregistrais et que tu mettais au début tout le temps, tu vois. Je sais pas que tu le disais à chaque fois. Parce que pour toi, j'ai l'impression que c'est toujours la même. T'arrives toujours à avoir la même intonation à chaque fois, quoi.
C'est une question d'habitude. Hein. On en est à 380 épisodes, donc au bout d'un moment, tu finis par avoir l'habitude. Et pour te mettre totalement dans la confidence et même mettre nos auditeurs dans la confidence, j'ai repris la publication d'un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires. Et de temps en temps, je m'en mêle les pinceaux dans un podcast. Je dis bienvenue dans l'autre. Enfin bref, ça devient du n'importe quoi. Donc de temps en temps, je refais les enregistrements. Mais effectivement, c'est une question d'habitude. Victor, on est là pour parler de toi, de ta vie de sportif, de ta carrière et de tout ce qui tourne autour. Ce que je te propose, c'est déjà commencer par une question très simple. Dis-nous tout, qui est Victor Lemasson ?
Alors, est-ce que c'est si simple que ça comme question ? je pense que pour me présenter, ce que je dirais, c'est que j'ai deux activités en ce moment. J'ai une activité qui me permet de... Quand on me dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» en fait, il y a deux réponses, quoi. Il y a la réponse comment est-ce que je gagne ma vie. Donc là, la réponse, c'est que je donne des cours particuliers de maths et de physique. Et je fais aussi des cols en prépa à Brest. Et à la question plus, c'est quoi le but de ta vie? Bon, je dirais pour l'instant, c'est de faire du triathlon au plus haut niveau possible. Et puis, c'est vraiment sur ça que je mets le principal de mon énergie depuis quelques années maintenant. Sinon, par rapport à mon parcours, je viens de Brest. J'ai fait un parcours classique avec bac S, prépa maths sup, après école d'ingénieur, puis une école de commerce derrière, et puis ensuite ensuite petit à petit je me suis mis au triathlon. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans tes questions.
Ouais, on va y revenir, je me permets de te couper. Voilà. Non, ce n'est pas un parcours classique, que ce soit d'un point de vue étudiant, mais aussi d'un point de vue sportif. J'aime bien qu'on remette un peu les pieds sur terre. Ça peut te sembler classique, effectivement, bac général, bac S, prépa, école de commerce ou école d'ingé, et puis après l'un à l'autre. Il y a de plus en plus d'ailleurs de XHEC, HECX, Central, HEC et autres. Mais non, ce n'est pas classique. Tu fais partie de l'élite, même au niveau des études, Victor. Tu vas nous expliquer pourquoi tout ça?
Ouais, c'est vrai. Mais après, en fait, tu vois, je trouve que t'as toujours tendance à te comparer aux gens qui sont meilleurs que toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu souvent ce que je ressens. Tu vois, par exemple, donc j'ai fait Central Lyon comme école d'ingénieur. Donc c'est très bien. Tu vois, objectivement, c'est une des meilleures écoles de France. Mais forcément, tu vois, je connais aussi des gens qui ont fait l'X, qui ont fait.
Donc X, c'est Polytechnique, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pareil. C'est la meilleure école d'ingénieur en France, X.
Ouais, c'est ça, voilà. Après, t'as aussi ENS Ulm. Là, c'est plus orienté recherche, on va dire. Mais c'est un niveau à peu près similaire à l'X, ouais. Et voilà, mais tout ça pour dire que, bon, c'est vrai que c'est vrai qu'en fait tu te compares toujours à des gens meilleurs que toi, donc c'est pas bon, en triathlon tu vois, moi je me compare à des gens qui sont meilleurs que moi, et du coup c'est vrai que j'ai du mal, enfin quand on me demande ouais est-ce que t'es fort en triathlon, bah j'en sais rien en fait, c'est tout est relatif quoi.
Ouais, bon alors après je pense qu'il y a certains marqueurs que tu peux avoir dans le sport que t'as pas forcément dans les études. Ok, tu peux faire une grande école, mais ça veut pas dire que tu vas être je sais pas, allez, soyons fous, président de la République, juste parce que t'as fait une grande école, que ce soit une école d'ingé, une école de commerce ou autre, il faut d'autres compétences. Dans le sport, déjà, tu passes pas forcément par une école pour exceller dans le sport. Il faut un talent, il faut du travail, et on en reparlera. Mais t'as quand même un juge de paix, c'est les résultats. Je veux dire, si on prend du côté français, Sam Lelo, il est champion du monde. Et s'il se compare, il peut peut-être se comparer à un Fred Van Liert, il peut peut-être se comparer à d'autres qui sont deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois champion du monde à l'Ironman d'Hawaï. Ok, mais ça n'empêche qu'il est champion du monde. Et ça, ouais, voilà, t'as quand même des moyens de te comparer, en tout cas dans le sport, qui sont, je trouve, un petit peu plus factuels que parfois dans les études ou dans le travail.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais c'est par rapport au fait de dire. Qu'est-ce qui est bien ou pas bien quoi, en fait. Enfin, tu vois, chacun a son échelle quoi, je trouve, et au final, ouais.
Tu sais, c'est comme habiter en Bretagne ou habiter sur la Côte d'Azur. Hein. T'en as qui vont préférer l'un plutôt que l'autre. Hein. T'en as qui aiment la flotte et t'en as qui aiment le soleil.
Ouais, c'est vrai.
Bon, non mais trêve de plaisanterie. Donc, Victor Lemasson, d'un côté. Tu fais des entre guillemets petits boulots, tu donnes des cours, tu donnes des cours particuliers, tu fais des calls en prépa, c'est-à-dire que tu fais travailler les étudiants pour ceux qui connaissent pas. Et puis d'un autre côté, ce qui t'anime, ce qui te fait vivre, pas forcément de façon pécuniaire, mais ce qui t'anime, ce qui te fait vivre intérieurement, c'est le triathlon. Tu peux nous parler un petit peu de toi, le jeune Victor, le Victor sportif s'il en était quand t'étais plus jeune.
Ouais, alors on va dire que mon histoire avec le sport, c'est tu vois, j'ai commencé à faire du judo quand j'avais 5 ans. C'est ma mère qui m'a inscrit au judo quoi. Et
tu vois, c'était pour t'occuper ou c'était parce qu'elle trouvait que t'étais pas assez pas assez endurci?
Ouais, je pense un peu les deux, tu vois. Non, mais je pense qu'il y avait aussi un côté je pense qu'elle voulait que je fasse du sport, tu vois, pour que je sois en bonne santé, et puis aussi parce que je pense qu'elle voulait. Enfin, il y a aussi une histoire de discipline un peu quoi. Je pense qu'elle voulait que je connaisse le goût de l'effort. Et puis le judo, c'était un bon sport pour ça, parce que tu vois, c'est un sport où t'es quand même relativement bien encadré quand t'es jeune. Donc tu vois, le judo, c'est le sport que j'ai fait le plus longtemps. J'en ai fait pendant 15 ans j'en ai fait pendant 15 ans jusqu'à mes 20 ans en fait quoi. Donc tu vois, j'en ai fait beaucoup, tu vois, bon, à un niveau, on va dire, départemental, régional, quoi. Tu vois, enfin, je faisais des podiums, on va dire, sur ce type de compétition, quoi, sur des championnats du Finistère ou championnats de Bretagne. Mais tu vois, je suis jamais allé plus loin que ça, quoi. Je suis jamais allé au championnat de France ou j'ai jamais vraiment passé le niveau au-dessus. Et tu vois, mes plus grosses années en judo, c'était première terminale. Et c'est vrai que, en fait, j'avais un peu je pense que j'ai jamais exploité mon potentiel au maximum, dans la mesure où j'avais pas forcément la structure pour ça, quoi. Enfin, tu vois, j'étais pas en pôle espoir, typiquement, je faisais le maximum des entraînements que je pouvais, c'est-à-dire que j'en faisais 4 par semaine. Et à côté de ça, tu vois, j'avais beaucoup d'énergie à revendre, et du coup, je faisais 3 séances de muscu à côté, quoi. Et en plus de ça, je faisais une séance de rugby avec les copains quand j'étais en terminale, tu vois. Et c'est vrai que c'est, au final, si jamais j'avais été, on va dire, tu vois, si j'avais été, mettons, plus guidé vers un objectif de haut niveau dans le judo, par exemple, j'aurais peut-être pu exploiter mieux l'énergie que j'ai mis à cette période, quoi. Après, voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est toujours une histoire de rencontre, quoi, tu vois, tout ça pour dire qu'après, du coup, bah, quand j'ai commencé la prépa, forcément, j'avais moins de temps pour le sport. Donc après, voilà, j'ai continué à faire du judo un petit peu, mais en fait, tu vois, c'est quand t'as un esprit de compétition et que tu t'aperçois que t'es moins bon qu'avant, tu sais, c'est un peu dur de régresser, quoi. Donc forcément, j'avais un peu moins, tu sais, j'y allais plus pour me défouler que pour vraiment performer, quoi. C'était plus le côté, tu vois, garder un équilibre physique à côté de l'exercice intellectuel, on va dire.
Ouais, alors d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse.
Ouais, bien sûr, ouais.
Pour ceux qui ne connaissent pas le judo, parce que 90% des auditrices et des auditeurs sont des triathlètes, pour ceux qui ne connaissent pas le judo, à première vue, comme ça, ça peut paraître un peu pépère. Mais en fait, déjà, il y a les entraînements qui sont assez exigeants. Et en compétition, c'est des rounds très rapides, très exigeants. On est vraiment sur de la haute intensité. Hein. Donc, effectivement, on n'est pas sur l'endurance. Même à l'entraînement, on n'est pas forcément sur l'endurance. On est vraiment beaucoup plus sur des filières anaérobie. Mais par contre, ça envoie, quoi. Ça fait travailler vraiment le cardio, là.
Ouais, bah c'est clair. Bah après, c'est vrai que c'est vraiment intense. Et pour le coup, tu vois, par exemple, les compétitions, c'est ça que je me demande encore comment je faisais pour gérer ça. Parce que, enfin, là, quand j'y repense, tu vois, c'est. Tu sais, tu devais faire un régime avant la compète.
Ouais, déjà, pour faire du cut, pour sécher, pour être bon sur la balance.
C'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer, tu vois. Après, donc, t'as fait un régime. Et après, la compète, bah, tu vois, t'es. Donc, en gros, tu te. Bah, ça dépend du type de compète, mais. Enfin, tu vois, en fait, moi, les grosses compètes internationales que je faisais pas, tu te pèses la veille en général. Et les compètes que je faisais moi, tu te pèses le jour de la compète, quoi. Donc c'est-à-dire que t'arrives le matin, t'as le régime, tu montes sur la balance et tu vois, t'as fait ton régime. Bah, tu sais, à l'époque, j'étais jeune, donc tu vois, je perdais pas non plus 10 kilos, mais tu vois, tu perdais 2-3 kilos, tu sais, c'était quand même assez. Surtout que moi, je faisais ça n'importe comment, tu vois. Genre, c'était, tu vois, à l'époque, je faisais, je sais pas, mettons 76 kilos, je devais passer en moins de 73. Bah tu vois, c'est les 3 jours avant, je vais pas bouffer et puis enfin c'était n'importe quoi en fait, quoi.
Ouais, super, bravo pour le corps, quoi. Mais, alors là l'équilibre, ouais, et tout, nickel.
Mais du coup tu vois, souvent bah du coup je passais la balance, souvent je la passais même avec 400 grammes de marche, tu vois, donc je me dis putain, je suis con, j'aurais pu faire un peu moins
j'aurais pu manger hier soir
sur le régime, tu vois. Et ouais, et puis après tu combats, et en fait tu sais, les combats du coup c'est des combats de. Bon, après les règles elles changent pas mal d'année en année, tu vois. Enfin, mais moi à l'époque où je faisais, c'était je crois que c'était 5 minutes. Et enfin c'est 5 minutes, après bah si tu mets hypon avant, bah le combat peut durer moins longtemps que ça, quoi. Mais du coup c'est des combats de 5 minutes et tu vois, c'est hyper intense sur le cardio. Et après c'est aussi vachement complet sur le plan musculaire, hein. T'as à la fois les, enfin à la fin du combat, surtout les avant-bras, t'as les avant-bras un peu éclatés, mais même sur les jambes et tout, ça tire bien. Et tu vois, en fait les combats, t'en fais 5 dans la journée. Enfin souvent c'est des, tu vois, pour gagner une compète, faut en faire 5 ou 6 en général, quoi. Parce que tu sais, c'est un tableau à élimination directe. T'as aussi des repêchages, mais tu vois, pour arriver en haut du tableau, en général, c'est ouais, t'as 5 ou 6 combats, quoi. Et tu vois, les combats, ils sont souvent espacés de, ouais, on va dire de, tu vois, 20-30 minutes, quoi. Donc souvent, c'est, tu fais 5 minutes, t'as 30 minutes de pause, tu refais 5 minutes à fond. Et tu vois, c'est vraiment toute une journée pendant laquelle tu dois à la fois te maintenir chaud, être sur des grosses intensités pendant 5 minutes. Et c'est vrai qu'à la fin, t'es rincé, quoi.
Ah ouais, j'imagine.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère faire un half. Où je me dis par exemple, voilà, pendant 4 heures t'es à fond et après c'est fini, quoi. Et c'est,
un half, ouais, en 4 heures, ok.
C'est des efforts différents, quoi. Ouais. Mais tu vois, par contre, je trouve le judo pour le coup, ça peut paraître assez éloigné des sports d'endurance, mais en fait, c'est quand même. Enfin, moi j'ai quand même trouvé un. Tu vois, j'ai quand même trouvé. Enfin, tu vois, en tout cas, je trouve que j'étais à l'aise dans les sports d'endurance après avoir fait du judo. Alors, je sais pas si c'est parce que génétiquement j'étais peut-être plus fait pour ça ou si c'est les bénéfices du judo, mais en tout cas. Tu vois, ce que je peux dire, c'est que le judo, ça m'a quand même donné une musculature, on va dire, assez solide, tu vois, sur l'ensemble du corps. Et puis au niveau du cardio, bah, tu sais, t'es habitué à des efforts assez intenses, quoi. Donc sur ce plan-là, c'est quand même pas mal. Bon, après, voilà, si un petit de 5 ans me dit, j'ai envie d'être champion du monde d'Ironman, je vais pas forcément lui dire, bah, fais 20 ans de judo et après fais du triathlon, tu vois.
Ouais, tu fais un samelé de l'eau, hein, bon. Tu commences, ouais, à 3 ans à faire du triathlon et puis à 25 ans, tu seras champion du monde.
Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que c'est, voilà, c'est quand même assez complémentaire. Enfin, c'est pas complémentaire, mais la transition se fait quand même assez bien, quoi.
Donc là, t'as 20 ans. Après, t'arrives au bout de tes 2 années de prépa. Tu passes les concours.
Ouais, alors, moi, j'en ai fait 3, tu vois. Tu vois, j'ai pas été bon, donc, j'ai fait 5 demi. Donc, du coup, j'ai fait 3 ans de prépa. Ouais. Donc après, là, je suis arrivé en école d'ingé. Alors là, tu vois, franchement, pour moi, c'était vraiment une renaissance. Au niveau social, enfin au niveau de la vie sociale et au niveau du sport, quoi. Parce que c'est vrai que bah, en prépa, tu vois, t'es quand même à fond dans les sciences, dans les études, quoi. Et là, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, du coup, j'ai vraiment redécouvert, tu vois, à la fois les soirées et le sport, quoi. Ce qui peut paraître un peu un peu aux antipodes, on va dire. Mais
c'est marrant parce que moi j'avais cette image, effectivement en prépa tu bosses beaucoup, quelle que soit la prépa, que ce soit prépa scientifique ou prépa école de commerce. Par contre j'avais cette image de ceux qui intègrent les écoles de commerce qui sont des gros teufards, et en revanche ceux qui sont en école d'ingé qui sont quand même un peu plus raisonnés, on va dire. T'es en train de nous dire qu'à Centrale Lyon
non franchement
ça fêtait bien.
Ouais, franchement, ouais, ça fêtait bien. Après, franchement, il y a tout, hein, tu vois, t'as plusieurs groupes sociaux, on va dire, à l'intérieur de l'école, quoi. Donc, ouais. Moi, globalement, tu vois, j'étais quand même plutôt dans le groupe des gens qui faisaient la fête, quoi. Mais ouais, donc tu vois, c'était à la fois, je faisais beaucoup de sport et je faisais aussi beaucoup la fête. Donc après, bon, tu sais, j'étais jeune, hein, donc franchement, sur le plan physique, on va dire, ça tenait. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais plus du tout avoir le même rythme, quoi. Tu vois, je pourrais pas du tout faire 2-3 soirées par semaine. Tu vois, je pourrais plus du tout le faire, quoi. Mais ouais, du coup, quand j'étais en école d'ingé, ce que je faisais comme sport, c'était beaucoup de rugby. Je faisais du rugby et puis après, en dernière année d'école d'ingé, je me suis remis un peu au judo, quoi. Du coup, j'étais en club à Lyon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, tu vois, c'était en 2014 ou 2015, je sais plus. 2014 ou 2015, je me suis, bah, tu vois, sur une compète de judo, je me suis arraché l'épaule. Tu vois, j'ai eu un arrachement ligamentaire dans l'épaule, en fait. Enfin, j'ai eu ce qu'on appelle une liaison de Bankard, en fait. Bon, en gros, c'est mon humérus qui s'est déboîté de mon omoplate avec du cartilage qui était un peu arraché. Et du coup, en fait, mon épaule, elle était plus du tout bien retenue. Et en fait, bah, tu sais, je continuais un peu le judo et le rugby, mais tout, genre, ça m'arrivait hyper souvent de me déboîter l'épaule, quoi. Genre, mais littéralement, je me suis, tu vois, sur les 2 années qui ont suivi, je me suis déboîté l'épaule, genre 8 fois, quoi, tu vois.
Je sais pas si tu as connu L'Arme Fatale, ce film avec Mel Gibson et Glover, ces deux policiers. Et justement, Mel Gibson, lui, il a une particularité, c'est qu'il se déboîte toujours l'épaule. Et notamment, ça lui permet souvent de sortir de situations un peu inextricables. Donc, je t'imagine bien, tu sais, là, à l'entraînement, puis allez hop, et là, tu vas te taper contre un mur pour te remettre l'épaule.
Alors, ouais, non, j'ai pas la référence, mais c'est vrai que des fois, ça m'arrive, tu vois, l'épaule, elle part et bah, après.
Bon, ça va, t'es pas obligé de dire que t'as 20 ans de moins que moi non plus, hein. Je t'en remercie.
Non, mais bah, pour le coup, tu vois, enfin, quand je la remettais, je repartais pas après, tu vois, parce qu'en fait, tu la remets, après, bah, tu vois, j'avais l'épaule un peu en vrac pendant 2-3 jours, quoi. Mais du coup, c'était fin de l'entraînement quand ça se déboîtait, mais bon, tout ça pour dire qu'en gros, voilà, donc, depuis que j'ai eu cette blessure à l'épaule, bah, c'est là que je me suis mis au sport d'endurance, en fait. Parce que du coup, tu vois, assez rapidement, j'ai compris que le judo et le rugby, c'était compliqué. Et du coup, bah là, je me suis mis à, tu vois, je me suis, enfin, tu vois, à l'époque, je faisais déjà un peu de course à pied, mais plus vraiment, enfin, tu sais, j'en faisais un peu pour faire mon petit footing, pour compléter ce que je faisais en judo et en rugby, quoi. Mais vraiment, c'était, tu vois,
ouais, c'est la course à pied de boxeur.
Ouais, c'est ça, voilà, exactement, tu vois. C'était vraiment, tu sais, genre, je faisais 12 bornes, d'un coup, une fois toutes les 2 semaines. Et je trouvais ça normal, tu vois.
Et à fond, évidemment.
Ouais, à fond, ouais. Enfin, à fond, pour mon niveau de l'époque, tu vois. C'est-à-dire, à l'époque, tu vois, je devais faire peut-être, enfin, franchement, je me rappelle même plus de mes allures parce que j'avais même pas de montre à l'époque, donc, tu vois, je pouvais même pas savoir, mais j'imagine que je devais courir à, tu vois, à 12, 13 heures. Ce qui, franchement, je pense, représentait, tu vois, pour aujourd'hui, c'est comme si je faisais un footing à 3:30, je pense, quoi, tu vois.
Bon, ouais, alors, je te remercie, hein, encore une fois, 12, 13 à l'heure. Il y en a beaucoup pour qui c'est une allure rapide, hein.
Non, mais c'est clair, mais moi, c'était comme ça avant aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça, tu vois, c'est vraiment, enfin, mais c'est juste que pour moi, tu vois, du coup, à cette époque-là, je faisais mes footings à fond et c'était pas du tout, enfin, voilà, je manquais beaucoup de maturité sur les sports d'endurance, quoi. Et tu vois, je me suis mis aussi au vélo, moi, je me suis acheté un vélo de route. Et voilà, je me suis mis à faire du vélo. Tu vois, j'avais quelques potes à Brest qui roulaient un peu, donc du coup, je me suis acheté un vélo pour aller rouler avec eux. Et voilà, c'est vers ces années-là, tu vois, donc vers 2014-2015 que je commençais à faire, on va dire entre guillemets, régulièrement de la course à pied et du vélo. Quand je dis régulièrement, c'est genre je courais peut-être 2-3 fois par semaine et je faisais pareil du vélo 2-3 fois par semaine, tu vois. Mais à côté de ça, tu vois, je faisais toujours un peu d'autres sports comme, tu vois, je faisais beaucoup de kayak, je faisais aussi un peu de muscu, tu vois, enfin, je faisais un peu de surf, enfin, tu vois, je faisais des sports comme ça, j'étais un peu touche à tout, mais je commençais à avoir une petite base de sport d'endurance qui commençait à se mettre en place. Et en fait, après, je me rappelle, bah, là, tu vois, la première fois que j'ai mis un dossard en course à pied, bah, c'était justement, il y avait un petit trail qui passait par chez moi, c'était en septembre 2016. Et là, du coup, bah, je me suis dit, tiens, le week-end prochain, bah, il y a le trail. D'habitude, je le regarde passer. Bah, tiens, là, je vais m'inscrire, tu vois, ça va être marrant. Et du coup, bah, je m'inscris. Et du coup, bah, là, sur le trail, je crois que je finis, tu vois, c'était un niveau hyper local, hein, tu vois, genre, il y avait vraiment pas de niveau, quoi. Enfin, tu vois, j'ai dû finir 9e, je crois. Mais tu vois, 9e, et je calculais le temps. Enfin, je crois, à l'époque, tu vois, c'était un trail assez roulant. C'était pas un trail, genre, méga casse-pattes, c'était un trail quand même assez roulant. En nature, enfin sur des sentiers où tu pouvais quand même aller vite. Je crois que mon allure, c'était, je me rappelle, j'avais fait genre 4,18 de moyenne, tu vois. Et pour moi, tu vois, c'était, tu vois, j'avais jamais fait ça en footing, tu vois, j'avais jamais fait ça à l'entraînement, donc j'étais là, ouais, putain, j'ai fait 4-18, c'était ouf, quoi, tu vois.
Ouais, mais c'est parce qu'en trail, tu descends aussi pas mal, donc ça te permet d'accélérer, c'est ça?
Ouais, non, mais pour le coup, franchement, c'était plat, quoi. Enfin, honnêtement, tu peux mettre, enfin, tu vois, franchement, l'équivalent sur route, honnêtement, j'aurais peut-être fait 4-10, quoi, c'était pas, enfin, tu vois, il y avait pas beaucoup de différence, quoi. Mais ouais, du coup, j'étais, bah là, tu vois, je regardais, tu vois, j'avais dû faire 9e, et tu sais, je regardais le temps qui me séparait du podium, et franchement, je regardais, genre, le podium, il était à, genre à 3-4 minutes, quoi, tu vois.
À 1 km.
Ouais, c'est ça. Et tu sais, pour moi, les mecs qui gagnaient ce genre de course, tu sais, à l'époque, j'avais pas trop de recul, mais tu sais, je pensais que pour moi, c'était un peu des stars à l'époque, quoi. Et je me dis, putain, mais en fait, ouais, là, si je m'entraîne, je pourrais peut-être aller gratter 3 minutes et faire des podiums, tu vois, sur ce genre de course, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, tu vois, petit à petit, là, j'avais envie d'en refaire et tout. Et c'est un peu cette année-là que j'ai commencé à, bah ouais, à prendre des dossards sur des petites courses comme ça, tu vois, c'était une année aussi, j'étais encore à Paris aussi cette année-là, donc tu vois, là c'était un trail en Bretagne parce que j'étais revenu le week-end, mais j'étais encore à Paris, donc je faisais aussi des courses, tu vois, j'avais fait les 10 km de Paris centre, les 20 km de Paris aussi la même année. Et tu vois, là c'est une année où tu vois, j'ai vu mes chronos, on va dire, vraiment décoller, quoi. Enfin, tu vois, genre sur 10 km, j'avais fait, tu vois, je m'aligne sur la course, je visais genre moins de 40. Et franchement, j'ai fait 37-40, un truc comme ça, tu vois. Non, même plus que ça, je crois que j'ai fait 36-40, je sais plus. Ouais, j'ai plus le temps exact, mais autour de 37 en gros, quoi, tu vois. Et tu vois, genre, alors que je partais sur, en me disant, je vais essayer de faire moins de 40, quoi, tu vois. Enfin, c'est genre le chrono qui reflète pas du tout ce que je visais, quoi. Et tu sais, c'était vraiment la période où je commençais à, on va dire, à, entre guillemets, structurer mes entraînements, tu vois. Tu sais, je faisais du 30-30, quoi. C'est un peu le premier truc que tu commences à faire quand tu commences à faire du fractionné, quoi. Et ouais, voilà, et petit à petit, comme ça, je commençais à faire de la course à pied, quoi. À mettre des dossards, à me fixer des objectifs. Et là, tu vois, donc quand j'étais, c'était en 2016, du coup. Et là, j'avais un pote d'HEC qui lui voulait faire un Ironman. Et tu vois, moi,
je sens l'arnaque.
Ouais, c'est ça, tu vois. Et tu sais, moi, je faisais pas très long à l'époque, hein. J'avais pas nagé depuis la terminale, quoi. Et tu sais, je me dis, tu sais, genre, parce que je courais souvent avec lui, quoi. Et je me dis, putain, en fait, franchement, à pied, tu vois, genre, il est pas meilleur que moi, quoi. Donc, tu sais, je me dis, ça me chauffait, quoi. Il me dit, vas-y, tu veux pas venir, tu veux pas le faire et tout. Enfin, il dit, ça te dit pas de te chauffer pour qu'on fasse, enfin, tu sais, au début, on devait faire l'Ironman de Nice. Mais en fait, tu vois, cette année-là, il y a eu les attentats à Nice, juste avant, enfin, l'été avant. Et du coup, ça avait été décalé par rapport à ça. Et finalement, on s'est reporté sur le Frenchman, quoi. Du coup, tu vois, en gros, mon premier triathlon, bah, c'était le Frenchman en 2017 en XXL, quoi.
Normal. Et tu vois, en fait, facile.
Et franchement, et finalement, tu vois, c'est un peu grâce à lui que je me suis mis au triathlon, finalement, parce que tu vois, s'il m'avait pas proposé ce défi, tu vois, bah peut-être que je me serais jamais mis au triathlon. Enfin, en fait, j'en sais rien, tu vois. Peut-être que si, parce que, enfin, je savais déjà ce que c'était un Ironman, et enfin, c'était quand même un truc qui m'inspirait, quoi, tu vois. Donc peut-être que je me serais dit un jour que j'en ferais un, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait passer le cap. Et tu vois, il faut se dire qu'à cette époque-là, quand j'ai pris mon dossard, bah tu vois, la course était dans 6 mois, et j'avais le plus long que j'avais fait à pied, c'était 30 bornes. À vélo, le plus long que j'avais fait, c'était 120 bornes, et j'étais en PLS à la fin, et j'avais pas nagé depuis la terme, quoi.
Ouais, donc, mais donc finalement, t'étais pas si loin de l'Ironman. En 6 mois, c'est faisable. Tu m'aurais dit, à 6 mois, ouais. Je m'inscris. J'ai eu William Perron sur le podcast. Le gars, en novembre, il s'inscrit pour son premier triathlon qui était Nice, donc l'Ironman de Nice. En novembre, il savait pas nager. Il avait jamais fait de vélo et il savait un petit peu courir. Là, ça va, t'avais quand même un peu de base.
Ouais, bah par rapport à lui, du coup, on peut dire que oui, du coup. Mais ouais, c'est.
Moi, je vous admire, les mecs. Vous êtes des héros.
Ouais, après, franchement, c'est pas. Enfin, en soi, je trouve pas que ce soit un truc intelligent que je recommanderais de commencer directement par ça. Tu vois, moi, c'est parce que surtout, en fait, ce que je voulais à l'époque, c'était surtout me fixer des gros challenges. Tu vois, c'était ça que j'avais envie de faire. Et j'étais pas forcément dans une optique de continuer le triathlon à long terme, quoi. Tu vois, c'est après que c'est venu, en fait. En fait, tu vois, c'est justement. Bah, là, j'étais plus en mode, ok, ça, c'est un gros défi. Vas-y, je me prépare pour ça, et je me disais, en fait, quand je l'aurais fait, j'étais pas sûr que, enfin, je me projetais pas du tout sur la suite dans le triathlon, quoi. Je me disais pas du tout, ouais, après je vais continuer. Mais en fait, le fait est que quand j'ai fait la course, tu vois, j'ai fait mon temps, je crois que c'était 10h28, il me semble, de mémoire, faudrait vérifier, mais je crois que c'était ça, ouais. Et franchement, j'étais hyper agréablement surpris par mon temps, quoi. Même si aujourd'hui, bon, c'est pas, enfin, tout est relatif, hein, tu vois, mais c'est sûr que je fais beaucoup mieux maintenant. Mais tu vois, en fait, après la course, après la course, j'étais complètement détruit. Enfin, tu vois, surtout quand tu fais le premier et que t'es pas, enfin, tu sais, j'avais pas du tout le volume d'entraînement que j'ai maintenant, quoi. Donc franchement, je pense que j'ai boité pendant 10 jours, quoi, tu vois. Enfin, j'avais les quadriceps tétanisés, tu vois. C'était un peu l'enfer au niveau de la récupération, on va dire les 2 semaines après, tu vois. Après, ça allait quand même. Mais tu vois, en analysant les chronos, bah, tu sais, je me dis, je peux pas rester là. Il y a trop de trucs à améliorer, quoi. Je me dis, là, je pourrais faire, tu sais, en natation, je pourrais gagner tant de temps, en vélo pareil, en course à pied pareil. Et du coup, bah là, j'ai chopé le virus, en fait, quoi. Tu sais, je me suis dit, allez, faut que je refasse un, quoi. Et après, le suivant, celui que j'ai fait après, bah, c'était l'Ironman de Vichy en 2018. Donc là, c'était en août 2018. Donc là, pour le coup, bah, c'était un an après. Donc je me suis quand même bien préparé. Là, pour le coup, j'étais, voilà, tu vois, je pense que les 6 mois avant, j'avais peut-être un volume moyen. Ouais, franchement, je pourrais regarder sur Strava, hein, mais de mémoire, je dirais comme ça autour de allez, peut-être 15 heures, peut-être 10-15 heures par semaine, quoi, tu vois. Donc ça commençait quand même à être un volume, on va dire, un volume solide, on va dire, un volume qui permet quand même de faire une perf que tu maîtrises, quoi, tu sais, où tu finis pas complètement éclaté, tu vois, où tu peux faire un marathon sans marcher, quoi. et si tu veux, à Vichy, bah là, j'ai fait, je crois que mon temps, c'était 9h02, un truc comme ça, quoi. Et pour le coup, bah, j'étais vraiment hyper surpris par ce temps-là, quoi, tu vois, genre, j'ai gagné 1h30 en un an, quoi. Et là, c'était un peu le défi, quoi, en me disant, ouais, là, j'ai vraiment envie d'en faire à fond, quoi. Là, faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à organiser mon emploi du temps et puis mon job, du coup, pour pouvoir vraiment m'investir à fond dans le triathlon, quoi.
Ça s'est fait vite, quoi, en un an et demi, finalement.
Ouais.
Enfin, vite et pas si vite que ça, quoi. En gros, en 2 ans, tu découvres le triathlon. Enfin, tu t'engages sur un triathlon, tu t'entraînes, tu découvres, t'en fais un deuxième, et là, tu te dis, bingo.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Une heure et demie en un an de préparation, dans 5 ans, je passe en dessous des 8 heures.
Ouais, ouais. Bon, après, je sais pas si je me disais ça, tu vois, mais en plus, franchement, à cette époque, tu vois, on dirait pas, mais le niveau, tu vois, rien quand. Là, c'était en 2018. Mais tu vois, genre, si tu regardes en 2018, sub 8, ça restait quand même une perf vraiment exceptionnelle. Et tu vois, franchement, rien que 6 ans après, là, tu regardes sub 8, ça devient assez classique, quoi. Enfin, ça a vraiment évolué de fou, quoi. Parce qu'en fait, du coup, sur l'Ironman de Vichy, donc, tu vois, je fais 9h02. Je finis, tu vois, à cette époque-là, je pensais pas trop à Hawaï, hein, parce que tu vois, je me disais que j'étais quand même, enfin, je me disais, bon, on sait jamais, tu vois, sur un coup de chance, ça peut passer. Mais en fait, je suis passé 4e de ma KT. Enfin, j'ai fini 4e de ma KT. Et j'étais à 50 secondes du 3e qui a eu le slot. et du coup, tu vois, j'avais loupé le slot à 50 secondes, quoi.
Ah, ça, là, ça tue, ça.
Ouais, ouais, du coup, c'est vrai que du coup, j'étais un peu deg. Enfin, deg. Non, en même temps, j'étais quand même super content de ma perf. Mais je me disais quand même, ah, je suis un peu deg. Surtout qu'en plus, tu vois, le mec qui fait 3e, tu vois, il me double à la fin du marathon. C'était un Allemand. Et tu sais, il avait un pote à vélo avec lui, quoi. Qui lui donnait le temps en direct. Et qui lui disait, ouais, le mec, il est juste devant toi, tu vois. Tu sais, normalement, t'as pas le droit d'être accompagné par un mec en vélo, quoi. Et tu vois, psychologiquement, ça, c'est quand même une aide qui est pas négligeable. Donc, bah, tu vois, j'avais un peu l'impression, bon, après, franchement, c'était à moi d'être meilleur, hein, tu vois. Mais j'avais quand même l'impression de m'être un peu, entre guillemets, fait voler mon slot, quoi, tu vois.
Et, ouais, non, j'imagine.
Non, mais du coup, enfin, après, bon, c'est la vie, hein, tu vois. Je veux dire, pas de regret particulier, quoi. Aucune rancune envers ce gars, d'ailleurs, je sais pas comment il s'appelle, donc.
Bon, on peut le retrouver, hein, t'inquiète, hein, je peux aller chercher.
C'est vrai que je peux le retrouver. Ouais.
Là, j'étais en train de regarder ton résultat French Mile, 10h28. Hein, tu fais quand même 8e de ta catégorie, hein, pour ton premier triathlon.
Ouais, ok, ouais, c'est possible. Bah, c'est vrai que c'était une belle perf. J'étais très content de ce résultat-là à l'époque. Mais ouais, du coup, après Vichy, donc là, pour le coup, tu vois, je m'étais vraiment mis, ok, maintenant, l'objectif, tu vois, c'est vraiment de me qualifier à Hawaï, quoi. Tu vois, c'était ça l'objectif. Me qualifier donc dans ma catégorie, à l'époque c'était 25-29, et du coup bah là je me suis vraiment fixé cet objectif là parce que du coup là je savais du coup maintenant que c'était faisable, quoi. Et du coup bah en 2019 du coup j'ai fait plusieurs Ironman, j'ai fait aussi des halfs en préparation, tu vois, mais moi je considère que mes objectifs principaux c'est quand même les full, tu vois, et les halfs je les prends plus en préparation. Mais du coup après, je me suis quand même qualifié aussi. Je me suis qualifié à Nice en half, tu vois, sur les mondiaux de Nice là qui avait lieu en 2019. Du coup celui-là je l'avais fait aussi, mais j'avais pas fait une bonne perf d'ailleurs. Mais sinon pour rester sur les foules, donc j'avais fait Cork c'était en juin 2019. Franchement ça c'était la course, mais c'est la course la plus épique de ma vie quoi. il a plu mais du début à la fin, je crois que j'ai jamais vu un jour. Et je crois que c'était, j'ai regardé sur les tu vois, c'était apparemment le jour de l'année 2019 où il y a eu le plus de pluie de toute l'année à Cork. Et ça tombait le jour de l'Ironman quoi. Mais tu vois, j'ai jamais vu ça, il s'est pas passé, j'ai pas vu le soleil une seule fois de la journée. Mais non seulement j'ai pas vu le soleil une seule fois, mais j'ai
pourtant pas, pour
j'ai
un breton tu devrais être journée. Habitué. Non, j'arrête avec ça.
Là, faudrait que je te montre la fenêtre là, parce que là c'est grand soleil ici là, c'est trop bien.
Non, excuse-moi, je t'ai coupé, je voulais t'embêter, je voulais taquiner.
Non, t'inquiète. Mais tu vois, non seulement j'ai pas vu le soleil, mais en plus, tu vois, il s'est pas passé une seule minute sans qu'il y ait une goutte de pluie qui tombe, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que il a plu non-stop pendant toute la journée, quoi. Donc, et franchement, la course, elle était épique parce que c'était vraiment une vraie course de guerrier pour le coup, tu vois. Et tu vois, du coup, il y a pas eu de natte, la natte était annulée, puisque la mer était un peu démontée. Du coup, on est parti.
Parce que comme il pleuvait, il fallait pas que vous soyez mouillé avant de vous mettre dans l'eau, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais pour le coup, je pense que niveau sécurité, en vrai, c'était un peu moyen, quoi. Enfin, tu sais, déjà qu'il y a eu des. Bah, tu sais, déjà cette année, il y a eu des morts, là, à Cork. Tu vois, sur le half de Cork, là, cette année, il y a deux personnes qui sont noyées en natation, quoi. Donc, pour le coup, tu vois, je peux comprendre quand même qu'ils aient annulé la natte ce jour-là, parce que, bon. Et puis moi, je t'avoue, j'étais quand même. J'avais testé la température de l'eau la veille. Et franchement, je me suis dit, putain, si je dois faire 3,8 bornes là-dedans, c'est vraiment pas chaud, quoi. C'est genre, mais franchement, pourtant, je peux te dire qu'à Brest, elle est pas chaude, loin. Mais là, à Cork, elle devait être à. Franchement, je sais pas, elle devait être à 13, quoi. Tu vois, 13 pour faire un Ironman, c'est. À la fin, t'as quand même les mains, tu sais, t'as du mal à les fermer à la fin, quoi. Bon, du coup, il n'y a pas eu de net. Du coup, on est parti en vélo en contre-la-montre. Bon, tu sais, ils font des départs tous les 20 secondes, tu vois, quand c'est comme ça. Par numéro de dossard, je crois, souvent, c'est comme ça. Donc là, voilà, bah, il y a juste vélo, course à pied. Et puis sur cette course, donc là, franchement, ouais, la course, elle était incroyable. Hein. Franchement, l'ambiance, mais le public, c'était dingue. Hein. Moi, si. Enfin, tu vois, je sais pas s'ils refont un Ironman cette année à Cork. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment une course que j'aimerais bien refaire, quoi, tu vois, parce que je trouve qu'au niveau du public et tout, c'était vraiment incroyable. Tu sais, tu passes dans plein de villages et dans tous les villages t'as des barrières avec t'as les gens qui sont amassés sur les barrières et qui tapent sur les barrières et tout quand tu passes, tu vois, t'as vraiment de l'animation, c'est trop bien, quoi.
Ouais, t'as l'impression d'être sur le Tour de France, quoi.
Ouais, bah quasiment, ouais. Et non, c'était vraiment top comme ambiance, j'ai vraiment adoré. Et puis après, bah tu sais, la course à pied, c'est dans le village, t'as 4 tours de 10 bornes, tu vois, assez classique, et tu repasses dans le village où il y a le village Ironman. Et voilà, super ambiance. Donc là je finis la course. D'ailleurs, une course qui a été gagnée par Brunley à cette époque. C'était assez cool de le voir courir aussi.
Je vois pas qui c'est.
Non, ouais, c'est marrant parce que ouais, pour moi, c'est un peu la star, quoi, tu vois, et tu le vois en vrai courir sur l'épreuve, tu vois.
Moi, tu devais pas le voir de très loin, t'étais pas loin derrière, non?
Bah, en fait, je le croisais, tu vois, surtout en course à pied, je le croisais, tu vois, parce que il y avait un peu des U-turns, quoi, tu sais, des fois tu repassais à différents endroits et puis du coup des fois je le croisais et puis tu sais, c'est marrant parce que je pouvais regarder un peu, vu que je le croisais à plusieurs endroits, je pouvais regarder un peu mon rythme par rapport au sien.
tu voyais qu'il était en train de te rattraper, de te prendre un tour.
En fait le truc c'est que franchement il avait lui il avait un tour d'avance sur moi. Du coup, en fait, quand lui faisait son deuxième tour, moi c'était mon premier, quoi. Et du coup, quand il faisait son troisième tour, moi c'était mon troisième. Donc tu vois, j'avais plus de fraîcheur que lui, quoi. Et en fait, tu vois, il allait pas beaucoup plus vite, enfin il me mettait pas grand chose, mais vu que c'était son dernier tour, tu vois, on allait tous deux décrescendo, mais au final, tu vois, la vitesse de son deuxième tour, tu vois, c'était, tu vois, au final il était plus rapide que moi, mais si on regarde avec un tour de décalage, il y avait pas tant que cette différence, quoi. Enfin, en tout cas, je prenais pas un kilomètre à chaque tour, quoi. Mais bon, en tout cas, à la fin il a fini une heure devant, hein, donc
Ouais, éventuellement on prend un kilomètre à chaque tour à Jean-Pierre, mais peut-être pas à Monsieur Brunley.
Ouais, c'est ça. Et du coup, à la fin de cette course, j'avais fini. Bah, là, pareil, je reloupe encore la qualif à Hawaï à une place.
Merde.
Donc là, je m'étais dit, ah, fais chier. Et du coup, bah, je me suis dit, enfin là, du coup, je me suis réinscrit sur un autre Ironman en fin de saison. C'était l'Ironman Italie, donc à Emilia-Romagna.
Cervia.
Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et cette course, tu vois, bah là, c'était pour moi, c'était vraiment une course où j'étais vraiment super fort. Hein. Tu vois, en fait, c'est marrant parce que c'était 2 semaines après le Half de Nice, donc tu sais, les championnats du monde de Half à Nice, sur lequel j'ai vraiment fait une perf pas terrible du tout. Tu vois, je suis vraiment passé à côté de cette course à Nice. Mais tu vois, 2 semaines après, à Cervia, j'étais vraiment en forme. Et tu vois, j'ai fait, sur les Romains, j'ai fait 8h39. Et j'étais. Ah oui, et pour l'anecdote, j'avais plus de batterie dans mon dérailleur de vélo, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai rechargé la veille. Et en fait, tu vois, quand je sors de l'eau, je prends mon vélo, le dérailleur marche plus, quoi. Les vitesses passent plus. Et du coup, j'ai tout fait sur un seul. J'ai tout fait en fixie, quoi.
Bravo!
Mais franchement, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'en fait, j'étais vraiment sur le bon plateau. Enfin, tu vois, je crois que le développement, je devais être sur le 53-14 quand j'ai posé le vélo au parc. Ça a pas bougé. Et tu vois, je pense que s'il fallait choisir un seul développement pour faire toute la course, c'était celui-là. La course était quasiment plate. Il y avait juste une bosse. Donc en fait, t'avais une bosse à faire deux fois parce qu'il y avait deux tours. Mais sinon, c'était quasiment que du plat. Donc franchement, dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance. La bosse, j'ai quand même perdu un peu de temps sur la bosse parce que tu sais, la bosse, je l'ai fait en. Il y a un moment, j'ai dû poser le vélo et pousser le vélo en fait sur la fin de la bosse parce qu'il y avait quand même des pourcentages. Il y a un moment, t'avais un petit 5-10% quand même à la fin, donc ça passait plus, tu vois, sur. Même en force, ça passait plus. mais ouais, sinon, franchement, j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur. Donc au final, j'ai quand même réussi à faire un vélo qui était, on va dire, plus que correct au vu des circonstances. Et après, à pied, j'ai vraiment fait un bon marathon. Je sais plus quel temps j'ai fait d'ailleurs, mais je sais pas, comme ça, peut-être 2h53, peut-être un truc comme ça.
Ouais, 2h53-40, t'as vu
Ok, d'accord. Enfin,
je check.
Ouais, et du coup, bah ouais, à pied, tu vois, j'avais fait un bon marathon. Et en net, pareil, en net, j'ai vraiment fait la meilleure net de ma vie à ce jour-là, quoi. Enfin, par rapport au niveau que j'avais à l'époque, j'ai vraiment fait une très bonne net. Et donc, au final, ouais, ça donnait un chrono de 8h39. Et ouais, donc vraiment un très très bon chrono. Et puis, du coup, là, avec ça, je finis deuxième de ma catégorie d'âge. Tu vois, je gagne même pas. Et c'était assez serré parce que devant, c'était de mémoire, je crois que je finis troisième groupe d'âge overall. Et je crois que je devais être à 2 minutes du premier, tu vois. Donc c'est vrai que tu sais, y a toujours je me dis toujours que sans le problème du derrière, bon, on va pas refaire le monde, hein. Mais bon, voilà. Et du coup, tu vois, j'ai ma qualif. Ouais, du coup. Et tu vois, là, il prenait que les deux premiers, quoi. Il prenait que les deux premiers sur un truc genre 170 dans la caté, quoi. Donc c'était quand même pas rien de faire ça, quoi. Et en plus, parce que le troisième, pour le coup, le troisième, il était pas très loin derrière moi, quoi. Donc tu vois, c'était. Enfin, tout était vraiment très serré, quoi. Tu vois, le premier était pas loin devant moi. Je crois que le premier de ma caté, il me semble qu'il menait genre 30 secondes, quoi. Et le troisième, il doit arriver de mémoire, je crois que c'était genre 3 minutes ou 2 minutes derrière, quoi. Donc tu vois, c'était vraiment. Enfin. Aussi bien j'aurais pu gagner la caté, mais aussi bien j'aurais pu ne même pas faire, enfin j'aurais pu faire troisième et pas avoir la qualif, quoi, tu vois. Donc c'était
le premier, a priori il te met 25 secondes, il te met même pas 30 secondes, il te met 25 secondes.
20, ah ouais, ouais, bah putain.
Et le troisième, il est à 3 minutes derrière.
Parce que ça je le savais pas en course, tu vois, mais c'est vrai que si je l'avais su, moi.
Bah si t'as vu ton petit mec avec le vélo à côté à te dire le premier il a 25 secondes.
Non, mais c'est vrai que là pour le coup j'avais pas de, enfin il y avait ma sœur et une copine à ma sœur qui était là, mais je les voyais pas assez souvent pour qu'elle me donne les repères temporels. Donc je crois que j'avais dû avoir le chrono, peut-être les écarts, genre j'ai dû les avoir peut-être à 10 bornes de l'arrivée, tu vois. Mais du coup je pense qu'en 10 bornes il s'est passé pas mal de choses, et clairement quand je passais la ligne, je savais pas qu'il y avait un mec 27 secondes devant, quoi. Mais bon.
Ouais, et puis en fait quand t'es en groupe d'âge, c'est assez difficile aussi de savoir si le mec qui est devant, ouais, c'est dans le même groupe d'âge que toi, enfin c'est pas marqué sur ton dossard, quand tu passes, enfin voilà, c'est compliqué d'avoir les écarts. Quand t'es en pro, et en fait t'as pas d'histoire de groupe d'âge en pro, donc tu sais que t'en as 3 devant, tu sais que t'en as 3 à aller chercher, mais quand t'es en groupe d'âge, c'est plus compliqué quand même.
Ouais, c'est clair, ouais. Et ouais, c'est pour dire que du coup, bah voilà, là j'avais enfin atteint mon objectif qui était de me qualifier à Hawaï. C'est tu vois, c'est, enfin pour le coup, c'était une fierté parce que j'étais passé à 50 secondes à Vichy en 2018, à Cork je passe à une place, et là tu vois, je l'ai enfin, et franchement c'était ric-rac, enfin c'était, tu vois, ça aurait pu enfin tout aurait pu mal tourner quoi, tu vois, avec le dérailleur et tout, j'aurais, enfin ça aurait vraiment pu se passer différemment quoi. Ouais, bah du coup là j'avais ma qualif pour Hawaï 2020 et en fait bah tu vois, j'ai eu le Covid. Ouais. Du coup c'était pas en 2020, c'était pas en 2021 non plus, et finalement ça m'a ramené à octobre 2022, tu vois. Donc voilà, après ouais, hésite pas à me relancer sur des questions hein, si tu veux, enfin là je continue à dérouler jusqu'à Hawaï, mais si tu m'interromps hein, si tu veux.
Justement, j'allais te poser des questions parce que là quand tu te qualifies, t'es amateur, t'es pas encore, ouais, pro. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu passes pro?
En fait bah moi tu vois, si tu veux, j'ai jamais fait de course pro encore, parce qu'en fait tu vois, j'avais en fait mon projet c'était du coup de faire Hawaï en amateur et après de passer pro ensuite. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, du coup 2020, bon là c'était l'année Covid, donc année Covid, il y a quasiment pas eu de course. Moi j'ai fait deux elfs cette année-là, tu vois. En plus c'était des elfs que j'ai même pas pu me préparer sérieusement, parce que c'était à chaque fois, tu sais, tout était annulé au dernier moment, donc c'était en mode, t'as là il y a un elf qui a peut-être pas été annulé, hop je prends un dossard, et au final tu sais, si tu prends le dossard, c'est 4 semaines après, tu peux rien planifier quoi. Donc c'était vraiment, j'ai fait deux elfs, mais on va dire voilà, un peu à l'arrache quoi. Et d'ailleurs c'est marrant parce que pour l'anecdote rigolote, tu vois, c'est, il y a un des elfes que j'ai fait avec Sam Ledlow, tu vois, et c'était le elf de la montagne noire près de Carcassonne.
Ok, bah pas très loin de chez moi.
Et c'est marrant parce que à cette époque là tu vois, Sam il était vraiment pas connu quoi, enfin tu sais, il avait déjà gagné le Bearman je crois, tu vois, il était hyper jeune hein, il devait avoir peut-être 20 ans à l'époque quoi. Et tu vois, il était pas très connu, mais tu sais, il affichait direct ses ambitions quoi.
Bah il venait juste de passer dans le podcast hein, je pense, quand il a gagné.
Ouais, c'est possible. Et tu vois, sur le podium, tu vois, il disait clairement, bah moi mon but c'est d'être champion du monde d'Ironman, tu vois. Et je trouvais ça marrant parce que franchement, moi quand il disait ça, je me disais ouais, il se la pète un peu quoi, tu vois. Tu sais, il affiche ses ambitions alors que pour l'instant il a pas encore prouvé grand chose quoi. Et franchement bah maintenant tu sais, je me dis bah respect quoi, tu sais, il a assumé ce qu'il a dit quoi, tu vois, c'est assez c'est assez inspirant quoi, finalement tu vois, il a posé ses ambitions, il l'a fait quoi, donc franchement respect. Mais ça m'a fait rire à l'époque, parce que tu sais, à l'époque je me dis ok, tu vois, le mec il dit ça sur le podium ouais
bah pff, ouais. C'était, écoute, c'est le moment où t'aurais dû prendre son numéro en fait.
Ouais, enfin moi j'étais pas sur le podium en tout cas. Sur cette course j'ai fait 5e, j'étais assez loin derrière je crois. Et je me rappelle, il faisait genre 40 degrés, tu vois, c'était un enfer cette course quoi. Et tu sais, sur les ravitaillements, il filait, tu vois, enfin il y avait plein de mesures à la con avec le Covid, tu vois, genre je sais pas, enfin des fois j'ai des trucs que je comprenais pas trop, tu vois. Mais en gros les ravitaillements, il y avait que des bouteilles d'eau en plastique. T'avais pas de boisson ISO dans des gobelets, parce que bah tu sais, pour le Covid, faut pas que les bénévoles touchent les boissons ou je sais pas, enfin tu vois, t'as plein de mesures comme ça, tu vois. Et du coup t'avais que de la flotte. Mais franchement, il faisait, enfin, ça hydratait pas quoi. Tu vois, t'avais une bouteille de flotte, il faisait 40 degrés, c'était, enfin, franchement, cette course c'était horrible quoi. J'ai rarement été aussi content de franchir une ligne d'arrivée, tu vois. C'était un calvaire toute la course.
Ouais, et du coup là, donc bon, 2020, on laisse de côté parce qu'effectivement, c'est une année noire, un peu comme le triathlon de la montagne qui était noir. Et qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui t'amène sur 2021, 2022, la suite, licence pro, victoire, tout ça.
Voilà, donc du coup, 2021. Là, c'est ma première année où je fais vraiment, où je commence vraiment à faire des belles perfs. Tu vois, des perfs, enfin, on va dire d'un très bon niveau amateur, voire d'un niveau néo pro. Tu vois, par exemple, qu'est-ce que je fais comme perf, sympa en 2021. Bon, en fait, alors ouais, dans mes courses globalement, bah, je fais les Sables d'Olonne en groupe d'âge, le half. Là, je fais premier groupe d'âge avec genre peut-être 5 minutes d'avance, je crois, sur le deuxième. Et tu vois, je me classe parmi les pros. Je crois que j'ai dû faire 12e de la course en tout, tu vois. Donc ça, tu vois, c'était une première course bien réussie. Après, je fais qu'est-ce qu'il y a eu comme course derrière. Bah après, j'avais fait le championnat de Bretagne de triathlon, où là, je fais deuxième derrière Paco Thibault Lopez. Je sais pas si tu connais, mais il a arrêté le triathlon maintenant. Mais c'était un pro assez costaud quand même, tu vois, donc là voilà, je fais deuxième derrière lui au Bretagne de longue distance. Ensuite qu'est-ce que je fais derrière, après j'ai fait l'Ironman Pologne. Ah ouais, ça c'est une sacrée course aussi, Ironman Pologne. Ça c'est une course où il y avait que des groupes d'âge, c'est une course, c'était un full mais sans pro. où là j'ai fait, tu vois, j'ai fait deuxième de la course. Et ouais, sur cette, franchement, cette course, elle était assez dingue aussi dans le scénario, que ouais, tu vois, je fais une nette, bon, une nette correcte, sans plus, tu vois, enfin, à mon niveau, c'est-à-dire pas terrible. Après, là, je fais un très très gros vélo. Tu vois, je fais surtout un vélo qui est vraiment, tu vois, un vélo en positive split, quoi. Ce qui est assez rare, en fait. Il y a la plupart des gens, enfin, les gens, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui me, il y a beaucoup de gens qui m'ont limite presque doublé au début et que j'ai redoublé à la fin. Mais en tout cas, enfin, tu vois, j'en ai pas vu beaucoup sur la course qui avait plus de watts à la fin qu'au début, quoi. Et moi, si tu veux, là, vers le kilomètre 150, bah, tu sais, je vois la voiture de tête, quoi. Je savais pas combien de temps j'étais sur la course, mais du coup, là, je me dis, putain, mais je suis en tête de la course, quoi. Tu vois, genre, ça m'était jamais arrivé, quoi. Truc de fou, quoi. Et là, sur cette course, du coup, je. Mais là, mais franchement, en fait, du coup, je m'enflamme, quoi. Tu sais, je me dis, putain, mais là, il reste 30 bornes de vélo. Et là, tu vois, j'ai un peu fait le débutant, quoi. J'ai mis trop.
T'as juste oublié qu'il y avait aussi un marathon derrière, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. En fait, je m'étais dit, tu vois, si, tu vois, en fait, mon point fort, c'était la course à pied. Ça a toujours été la course à pied, mon point fort en triathlon. Et je m'étais dit, tu vois, si je pose le vélo et que j'ai de l'avance, enfin, là, il pourra rien m'arriver, quoi. Il y a personne qui va, enfin, personne va me mettre 10 minutes sur un marathon, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, c'est ce que je croyais. mais en plus, tu vois, là, tu sais, à la fin du vélo, faut imaginer, tu commences à rentrer dans la ville. Là, t'avais une autoroute qui était un peu, tu sais, qui était un peu bloquée. En fait, t'avais une portion d'autoroute et t'as les voitures qui circulaient sur l'autre côté de l'autoroute, quoi. Et tu sais, t'as l'autoroute pour toi, t'as le cortège des voitures roses et tout. Et tu sais, sur l'autre côté de l'autoroute, t'as les voitures, tu sais, qui avaient la portière baissée, t'as tout le monde qui tapait sur les portières et tout, tu sais, pour t'encourager et tout, quoi. Et t'es seul en tête à ce moment-là, tu vois, ça galvanise tellement.
Ah, ça,
quoi,
doit être grisant.
Mais ouais, carrément. Mais en fait, du coup, tu sais, je regardais même pas mes watts, mais je pense que j'ai fait n'importe quoi, tu vois. Et du coup, pendant cette fin de course, tu vois, les 30 derniers kilomètres, j'ai vraiment appuyé comme un. Ouais, j'ai appuyé comme un boucher, mais tu vois, c'était trop, quoi. Au final, j'ai posé le vélo, bah, tu vois, j'avais 5 minutes d'avance. Donc, tu vois, j'ai mis 5 minutes en 30 km, quoi, sur les 30 derniers kilomètres, sur le deuxième, quoi. Et je crois que au semi-marathon, donc, tu vois, je commence le marathon assez fort. Arrivé au semi-marathon, il me semble que j'avais un truc comme 7 minutes d'avance, un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, mais je me dis, là, il reste un semi à faire, 7 minutes d'avance. Tu vois, normalement, enfin, qu'est-ce qui peut m'arriver, quoi.
Mais jamais personne ne me rattrapera, je vole, là, c'est ça?
Ouais, c'est ce que je croyais, ouais. Et en fait, franchement, au kilomètre 25, mais j'ai eu les crampes de l'espace, quoi. Enfin, j'avançais plus, quoi. Tu sais, j'étais vidé, mais vraiment, il restait 15 bornes à faire. C'était l'enfer, quoi. Et je me suis fait rattraper, quoi.
Et bon, ça va, tu sauves les meubles, tu fais quand même deuxième.
Ouais, c'est clair. Mais tu vois, ouais, c'était dans la souffrance, hein. Parce que tu vois, à la fin, il y avait le troisième, il était pas très loin derrière. Et ouais, du coup, bah ouais, je finis deuxième. Je crois que le premier, du coup, au final, il me doit me mettre 3 minutes en tout. Le premier, tu vois, enfin, il a dû me mettre 3 minutes, du coup, sur les 15 derniers kilomètres.
La belle remontada, du coup, le mec, il prend 10 minutes, quoi.
Ouais. Non, bah, il a été solide, hein. Enfin, il a été consistant, tu vois. Il s'est pas démonté comme moi, quoi. Et puis, bah, félicitations à lui. Hein. Mais du coup, ouais, sacrée course, tu vois. Enfin, tu sais, genre, le genre de course, tu vois, où. Enfin, tu sais, c'est enfin une grosse course pour l'expérience et en termes de, enfin, tu vois, en termes d'intensité, tu vois, un truc, t'es content de l'avoir vécu, quoi. Même si le scénario, forcément, il a pas été en ma faveur, mais bah, tu vois, c'est vraiment un moment de vie que j'ai adoré, quoi. Tu vois, c'était vraiment vraiment kiffant. Donc voilà, Ironman Pologne. Ensuite, tu vois, j'ai fait Dinard, le L de Dinard. Donc là, tu vois, je gagne la course. Ouais, c'était un half, on va dire, avec un niveau, bon, enfin, je dirais le niveau des meilleurs, c'était niveau semi-pro, on va dire, quoi, tu vois. Donc là, je gagne, et deux semaines après, je fais le full de Deauville. Et bah, c'était la première année où il y avait un full à Deauville, tu vois. Et là, pareil, je gagne. Après, là, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de monde, enfin, hein, bah, tu vois, il y avait Lilian Pierre qui finit derrière moi. Mais à part Lilian, tu vois, derrière, ça finit quand même assez loin, quoi. En gros, on était un peu deux vraiment au-dessus, tu vois. Et puis derrière, c'est vrai que ça manquait un peu de bataille, on va dire, pour enfin de densité, on va dire. Ça manquait de densité devant, quoi. Mais finalement, enfin, moi, tu sais, là, je faisais vraiment une bonne course. J'ai sorti mon meilleur marathon, tu vois. J'ai sorti un marathon en 2h46-47, un truc comme ça, un truc dans le genre, quoi.
Le mec, il a appris à courir 5 ans avant, quoi. Avant, il faisait du footing en jogging avec la capuche, ouais, sur la tête, non, mais... à la Rocky.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis que la course à pied, enfin, ça a toujours été mon point fort depuis que je fais du triathlon. Et c'est vraiment le sport sur lequel, bah sur le, ouais, sur lequel j'arrive facilement à progresser, quoi. Et donc voilà, donc là du coup, tu vois, 2021 c'était ma première année vraiment avec un, enfin que je considère avec un très bon niveau, quoi. Après du coup 2022, donc là l'objectif c'était, bah, c'était Hawaï, du coup Hawaï en octobre. Donc,
du coup, t'avais presque un double slot pour Hawaï, parce que t'avais celui que t'avais récupéré en 2019,
bah, ouais,
et
ouais,
puis
ouais,
celui que t'aurais pu, ouais, avoir en Pologne.
Ouais, exactement. Ouais, j'aurais pu en avoir plusieurs. Ouais. Mais en plus, le truc c'est qu'après le Covid, c'était beaucoup plus facile d'avoir la qualif parce qu'ils mettaient beaucoup plus de slots. Tu vois. Enfin, ils en distribuaient beaucoup plus, quoi. Genre, je crois qu'en Pologne, c'était jusqu'au 8e, quoi. Tu vois, moi, pour te donner une idée, j'avais une heure de marge pour avoir le slot en Pologne, quoi. Donc. Donc ça allait, quoi.
Finalement, t'avais pas besoin de te sortir les tripes sur le marathon, ouais, tu vois. Ouais. Tu pouvais rester encore loin derrière. Tu pouvais y aller tranquille sur les 15 derniers.
Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que ouais, là j'avais une heure de marge, alors que tu vois, bah, les trois Ironman que j'ai fait avant, deux fois je le loupe à pas grand chose, et en Italie je l'ai, mais à 3 minutes près, quoi, tu vois. Et du coup, ouais. Donc après, du coup, 2022, là, c'était vraiment, tu vois, pour moi, 2022, mon objectif, c'était clair, c'était faire Hawaï. Faire la meilleure perf que je pouvais dans ma caté. Mon objectif, bah, c'était de gagner, hein, tu vois, je vais pas me cacher, j'avais pas, enfin, c'était ça l'objectif, quoi, pour moi, tu vois, je m'étais fixé cet objectif là et après c'était de passer pro, du coup, en 2023, et faire ma première saison pro en 2023, quoi. Sachant que, tu vois, si j'avais pas fait Hawaï, bah, je serais déjà passé pro en 2022, quoi, tu vois, j'aurais fait ma saison 2022 en pro, quoi. Mais en fait, tu peux pas faire de course pro et ensuite faire Hawaï en amateur. Du coup, en fait, en 2022, du coup, je me suis contenté de faire des courses où il y avait pas de distinction pro amateur, tu vois, enfin, c'est-à-dire des courses où t'avais un peu de prize money, mais sans que tu puisses, enfin, sans que tu sois, enfin, sans que t'aies besoin d'avoir le certificat pro pour être dans la startlist, quoi, tu vois. Du coup, en 2022, ce que j'ai fait comme course, donc j'ai fait, en gros, j'ai fait Lacano, le half de Lacano, j'ai pas fait une bonne course, enfin, même une course assez catant, on va dire, tu vois. J'ai fini, tu vois, mais j'avais envie de bâcher, en vrai, tu vois. c'est le genre de course, tu poses le vélo, tu sais que, enfin, tu poses le vélo, t'as pas du tout fait tes watts. Tu sais très bien que tu vas pas faire podium, tu vois. Enfin, tu sais, tu sais même pas pourquoi tu continues à courir, tu vois. Mais bon, après, j'avais un peu de famille qui était là, donc je pouvais pas trop, j'étais un peu obligé de finir, quoi. Mais c'était vraiment pas une bonne course. Donc, du coup, je fais la cano, vraiment pas une bonne course. 3 semaines après, j'avais le Frenchman. Et là, le Frenchman, j'étais inscrit sur le full. Et là, du coup, là, j'ai vraiment fait une très bonne course. Bah, je gagne la course en 8h12. Avec un marathon en 2h41, tu vois. 2h41-40, un truc comme ça, tu vois. Donc là, tu vois,
le mec est juste stratosphérique. C'est hallucinant.
Ouais, non, mais là, tu vois, là pour moi, c'était vraiment une, enfin, là j'avais pas, enfin, je sentais que j'avais vraiment passé un gros cap, que là, je sentais que j'avais vraiment moyen de faire quelque chose, bah, après, tu vois, enfin, en continuant à progresser un petit peu, je sens que j'avais vraiment moyen de faire quelque chose sur des courses en m'alignant chez les pros, quoi, tu vois. Enfin, il y avait quelque chose à faire, quoi. Après, je dis pas forcément gagner un Ironman, tu vois, mais, enfin, pas dans un premier temps, en tout cas, mais tu vois, déjà faire un, commencer à me placer, tu vois, peut-être faire top 5, top 8, peut-être, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, je sentais qu'il y avait quand même vraiment moyen, là, de faire quelque chose. Mais du coup, tu vois, c'est marrant parce que, tu vois, le Frenchman, donc, super perf, bah, maintenant, enfin, aujourd'hui, tu vois, rétrospectivement, c'est ce que j'ai fait de mieux sur full jusqu'à maintenant. Mais à ce moment-là, tu vois, j'étais en pleine progression et je me disais, c'est que le premier full de la saison et derrière, je vais faire mieux, quoi, tu vois, c'était ça l'optique, quoi. Sauf que derrière, donc, bah, 3 semaines après, tu vois, j'ai fait Deauville. Alors, en fait, Deauville, j'avoue, c'était un peu une connerie parce que, tu vois, c'était 3 semaines après le Frenchman. Franchement, j'aurais tellement dû me reposer et pas le faire et tu sais, refaire un cycle, tu vois, repartir de. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais, tu vois, en fait, j'avais un dossard gratos parce que, tu vois, j'avais gagné la course l'année dernière, tu vois. Donc, du coup, j'avais un dossard gratos. Du coup, c'est assez tentant, tu vois, enfin, quand tu vois le prix des dossards, t'es quand même content quand t'as un dossard gratos, tu vois.
C'est clair.
T'as pas envie de le mettre à la poubelle, quoi. Et du coup, je l'ai fait.
Bah, tu files à des potes, tu le fais gagner.
Ouais, ça, j'aurais pu. Mais je crois qu'en plus, c'était nominatif, donc je suis même pas sûr que j'aurais pu le filer à quelqu'un. Du coup, ouais, je fais Deauville, je fais 3e, tu vois. 3e sur le L. Franchement, la course, c'était pas terrible. Enfin, j'étais pas sur une. En fait, j'avais pas bien récupéré du Frenchman. En plus, il y avait la canicule. Après, la canicule, c'est pas une excuse parce que tout le monde l'avait, donc tu vois, je vais pas dire que c'est à cause de ça que j'ai fait 3e. Enfin. Enfin, même 3e finalement, c'est bien en soi. C'est juste ma perf personnelle que je trouve pas terrible. Tu vois, j'ai pas fait une très bonne course.
Ouais, t'as pas eu les bonnes sensations et tu sentais que t'étais poussif.
Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai donc voilà. Après, bon, 3 semaines après un full, franchement, c'était pas non plus. Enfin, je m'attendais pas à des miracles non plus, tu vois. Mais du coup, finalement, j'ai accumulé un peu de fatigue. Après, 2 semaines après, je fais le Strymon sur le L.
Le mec te dit j'aurais pas dû faire Deauville et finalement dans 15 jours après t'enchaînes sur le Streamman. Ouais, c'est ça. T'as pas fait une école d'ingé, t'es pas censé être un peu carré normalement.
Ouais. Ouais, non mais en fait si tu veux, j'avais quand je dis j'aurais pas dû faire Deauville, c'est justement j'aurais dû faire le Streamman mais sans faire Deauville avant quoi, tu vois. J'aurais dû plutôt prendre 5 semaines sans course entre le Frenchman et le Streamman, prendre tu vois genre 10 jours enfin vraiment une semaine off complet après le Frenchman. Après faire on va dire 5 jours de reprise très progressive et après tu vas faire 3 semaines de préparation pour le Streamman quoi, tu vois. Et là j'aurais pu enfin je pense que j'aurais été bien mieux préparé quoi. Là tu vois j'ai fait je fais le Frenchman, hop je fais une semaine de récup, même pas. Après je refais un bloc d'une semaine, mais après c'est déjà l'heure de m'affûter pour c'est déjà l'heure de l'affûtage pour Deauville, donc du coup il y a pas eu de bloc, il y a juste enfin tu sais au final. Après ouais enfin du coup je fais Deauville voilà, là j'étais rincé après la course tu vois. Ah, tu sais, d'ailleurs c'était la pour l'anecdote, c'était la course où il y a eu une énorme tempête à Deauville, je sais pas si tu t'en souviens.
Rappelle-moi, tu me préviendras si jamais je me remets au triathlon ou sur swimrun ou sur duathlon. Putain, je t'appelle avant et c'est sûr, si tu y vas, j'y vais pas. J'ai pas envie de faire une course sous la tempête. Hein. Toi, tu les attires, c'est pas possible.
Mais là, il y a pas eu de flotte. Hein. C'était une tempête de vent, c'était une tornade en fait qui est passée sur le triathlon. Et tu vois, du coup, moi, j'ai pu finir, mais genre, enfin, une demi-heure ou une heure après, les gens ils pouvaient plus finir quoi. Et en fait, la course, elle a été neutralisée au bout de 5h30 de course. Mais tu vois, 5h30, enfin, il y a peut-être la moitié qui a pas fini, quoi, sur le half, quoi. Et ouais. Donc, du coup, c'était, c'était assez,
Non, mais si vous voulez défier les éléments, c'est pas la peine d'aller sur le Norseman ou des triathlons extrêmes, des trucs comme ça. Vous allez juste là où va Victor. En été, vous êtes sûr qu'il va faire une canicule de malade et que vous aurez juste des petites bouteilles de flotte de rien du tout. Au printemps ou à l'automne, vous prendrez les tempêtes sur la tronche. Je l'imaginais pas celle-là, Victor.
Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que j'aime bien les courses avec des fortes conditions météorologiques. Non mais du coup Deauville, Deauville c'est marrant parce que c'était canicule et après il y a eu la tempête quoi. Enfin il y a eu la tornade en fait. C'est une tornade qui est passée sur le. Mais tu vois genre moi je me rappelle j'étais dans le Airbnb, on était en train de faire sécher les affaires dehors. Enfin tu sais j'étais qu'un groupe de potes, on devait être 3-4 à faire la course. Donc là on avait tous fini, tu vois, on avait tous fait moins de 5h quoi. Tu vois, on était un peu dans ce niveau là quoi. Et donc là on avait pris nos douches, on met nos affaires à sécher. Et là mais tu sais, genre, j'avais mon vélo contre le mur, et là, à un moment, je le vois, il se casse la gueule par terre, et 10 secondes après, mais t'avais tous les draps qu'on avait mis dehors, qui étaient, enfin, tout à valdinguette partout. Là, on s'est grouillé de tout rentrer, deux minutes après, t'avais le, enfin, c'était la tornade, quoi. Enfin, j'avais jamais vu ça, mais t'avais littéralement un ouragan qui est passé sur le site, quoi. Ouais, c'était chaud, non, c'était méga chaud. Là, du coup, la course était neutralisée, tu vois, donc la moitié des gens ont pas pu finir. Et voilà. Bon, c'était pour l'anecdote. Du coup.
Non, mais je note, c'est sympa comme anecdote. Et puis 15 jours après, le Streamman.
Ouais, 15 jours après, Streamman. Donc là, je fais 3ème. 3ème avec un niveau qui commence à. Avec un niveau, on va dire, qui était pas mal. En fait, ça commençait à redevenir les perfs que je faisais en. En gros, c'était une perf équivalente à peu près à ce que j'ai fait à Dinard en 2021 quand j'ai gagné, quoi, tu vois. Sachant que le Streamman, t'avais quand même un niveau un peu plus relevé, je trouvais. Mais du coup tu sais c'était la même perf mais avec en sachant que j'étais censé avoir progressé depuis, donc du coup finalement c'est une perf qui montrait pas une grosse progression et du coup tu vois c'était pas une course satisfaisante quoi, tu vois.
Bah ouais mais juste 3 grosses courses en 6 semaines, tu m'étonnes que...
Bah c'est ça, non mais c'est ça tu vois, mais du coup c'était débile et du coup la conclusion de tout ça bah c'est que bah du coup ensuite je devais ensuite bah j'avais un Ironman de prévu 3 semaines après le Streamman en Angleterre. C'était sur le circuit Outlaw. Je sais pas si tu connais le circuit Outlaw. C'est un petit circuit un peu comme, c'est un petit circuit un peu type Ironman, mais tu vois, enfin, beaucoup plus local. Enfin, c'est que sur le continent, sur l'île du Royaume-Uni, quoi. Et t'as genre 6-7 courses, tu vois, avec, il y a plusieurs halves et il y a un Ironman. C'est à Nottingham, quoi. Ça s'appelle Outlaw Nottingham, tu vois. C'est un full. Et du coup, moi, je m'étais inscrit sur cette course. C'était censé être un peu ma course de prépa d'Hawaï quoi, tu vois, ça tombait 2 mois avant Hawaï, donc je trouvais ça bien de faire un Ironman 2 mois avant pour faire un Iron. Après,
et de toute façon, t'étais plus à une course longue après.
Ouais, c'est ça. Enfin, un peu la répétition, tu vois, et l'objectif c'était ça. C'était, je fais Nottingham. Après, je me repose, tu vois, je fais une bonne coupure de 1 semaine 10 jours. Et après, du coup, là, je repars sur un bloc de 7-8 semaines, vraiment à fond sur Hawaï. Et c'était ça l'idée. Sauf que, tu vois, du coup, bah là, paf, 10 jours avant Nottingham, fracture de fatigue, quoi. Comme par hasard, tu vois. En même temps, ça me pendait au nez, tu vois. Mais tu vois, c'est vrai que, pour le coup, je manquais un peu de recul. Hein. Une fois que tu repenses rétrospectivement à la façon dont j'ai planifié ma saison, tu vois, c'était ça. Maintenant, je me dis, ouais, c'était logique, tu vois. Il y a pas mal de facteurs qui ont encouragé ça, quoi. En fait, le truc, c'est que, tu vois, donc j'ai eu une fracture de fatigue, donc 10 jours avant Nottingham. En gros, je pense que si je devais faire un peu la liste des causes de la fracture, tu vois, je pense qu'il y a le fait que j'ai enchaîné trop de courses sans me reposer, tu vois, j'accumulais beaucoup de fatigue depuis le début de la saison. En plus de ça, tu vois, en début de saison, j'ai fait la saison de cross en athlétisme. Donc du coup, tu vois, ça faisait aussi un peu un pic de forme qui arrivait un peu trop tôt, tu vois, et du coup, ça faisait trop de, ouais, tu vois, trop d'échéances, trop de dispersion en fait dans mes objectifs. J'aurais dû être plus concentré sur moins d'objectifs et plus de focus sur moins d'objectifs, quoi. Et en plus de ça, bah tu vois, la fracture, elle est arrivée pendant une canicule. Tu sais, c'était les pics de forte chaleur qu'il y a eu en juillet 2022. Je sais pas si tu t'en souviens, mais ouais. Genre pour donner une idée, tu te fous de ma gueule parce qu'il pleut à Brest, mais là il faisait 42 à Brest.
Non, je me moque pas de toi. Je taquine un peu sur l'histoire de la Bretagne, mais en même temps, ça m'étonne pas. Je te dis, t'aimes bien jouer avec les éléments. Donc là, déjà, t'es pas en forme. Enfin, tu récupères pas bien. Tu t'apprêtes à aller sur une compète. Forcément, canicule. De toute façon, c'est tempête ou canicule avec toi, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais du coup, ouais, sur. Donc là, forte chaleur. Tu vois, j'avais un planning de prévu. Tu vois, j'avais un coach qui me faisait mon planning et tout, quoi. Et tu vois, moi j'avais pas trop la, enfin, tu sais, moi j'aime pas dire ouais je suis fatigué, je fais pas la séance, quoi, alors que tu vois c'est normal, hein, en tant qu'athlète faut aussi s'écouter, quoi. Mais tu sais, moi j'étais un peu buté, quoi. Je vois la séance sur le papier, je veux absolument la faire, quoi, tu vois. C'est le coach qui a dit, donc je la fais, quoi, tu sais, alors que, enfin, le coach il attend aussi que je lui dise un peu mes sensations, quoi, tu vois. Bref, en gros, tu vois, j'ai pas du tout voulu déroger au plan. J'ai fait tout ce qui était prévu, alors que c'était déjà censé me faire un peu flirter avec ma limite, et en plus de ça il faisait 42, donc tu vois. Là, je pense que j'ai vraiment dépassé la limite. Hop, fracture de fatigue. Et du coup, Nottingham, c'était mort. Et après, tu vois, en fait, Hawaï, c'était 2 mois et demi après. Et le médecin, il me disait qu'une fracture de fatigue, ça mettait 4 à 6 mois pour se reconsolider, quoi.
Ouais, ça dépend où, mais ouais, c'est long.
Ouais, ouais, bah, enfin, en gros, c'est ce qu'elle m'a dit, tu vois. Mais tu vois, moi j'avoue que j'avais quand même un espoir, quoi. Je me dis, bon, 2 mois et demi, 4 à 6 mois, tu vois,
c'est bon.
Je prenais plutôt 4 mois déjà, tu vois. Déjà 6 mois, j'envisageais pas trop ça, tu vois. Je me disais, allez, prenons 4 mois, supposons que le médecin il mette 2 mois de marche pour être sûr, tu vois. Bon, bah 2 mois et demi, ça peut le faire. Non, mais en gros, tu vois, j'étais vraiment dans l'idée, putain, tu vois, ça fait 3 ans que j'étais qualifié à Hawaï. Ça a été reporté 2 fois. Là, je peux enfin faire la course, tu vois. Je me dis, j'ai reporté d'un an ma première saison pro pour faire Hawaï. Tu sais, je me dis, c'est pas possible que j'y aille pas, quoi. Tu vois, ça fait trop chier, quoi. Tu vois, enfin, ouais, du coup, tu sais, j'ai un peu fait un déni de, je pense, un déni, tu vois, de ce qui se passait. Enfin, tu vois, j'avais quand même envie de continuer à y croire. Du coup, bah tu sais, je continuais pas à courir, mais tu sais, je continuais quand même à m'entraîner sérieusement en vélo natation. Et la course à pied, j'ai essayé de m'y remettre, genre 3 semaines avant, quoi. En me disant, de toute façon, bon, j'ai déjà un gros niveau, donc en 3 semaines, je peux toujours sortir un bon marathon, tu vois, on sait jamais. Mais en fait, le truc, c'est que, bah, du coup, tu vois, en fait, j'avais déjà tout réservé pour Hawaï, donc j'ai quand même pris mes tickets pour Hawaï. J'y suis allé. Et en fait, j'avais testé 3 semaines avant. J'avais fait un petit footing de 4 bornes. J'ai eu un peu mal après, donc je me suis dit, bon, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Je me dis, j'avais quand même réussi à courir 4 bornes. Ça me faisait un peu mal après, c'était pas non plus une douleur, j'étais pas non plus à 4 pattes, tu vois. Du coup, bah, je vais à Hawaï, genre 3 jours avant la course, je reteste un footing. Là, j'avais pas couru du coup depuis 2 mois, quoi, tu vois. Donc là, j'étais parti en mode, si ça passait, je faisais un marathon sans entraînement, quoi. Mais là, j'ai fait un footing avant Hawaï, 4-5 bornes, et enfin 3 jours avant la course, quoi. C'était sur l'île, et en fait, ça passait pas, quoi. Tu vois, genre l'après-midi, je boitais, j'avais mal, tu vois. Je me dis, bon, clairement, c'est complètement con d'aller faire un marathon dans ces conditions. Du coup, bah là, je savais que c'était mort pour la course. Du coup, j'ai juste fait natation vélo, et voilà. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait, tu vois, natation vélo. Donc natation, je fais une natation pas terrible. Après, ouais, c'est vrai que j'étais pas, enfin de base, je suis pas un très bon nageur. Là, c'était nat sans combi, donc sans combi, tu vois, ça avantage pas les pas très bons nageurs. Et en plus de ça, j'ai pas fait une très bonne nat par rapport à mon niveau, quoi. Donc en gros, je suis sorti de l'eau assez loin, je suis sorti en 1h03, 1h04, un truc comme ça. Et après, j'ai fait un gros vélo, du coup. Le vélo, je crois que je fais le troisième temps de ma catégorie, tu vois, en vélo. Et voilà. Et puis quand je pose le vélo, tu vois, après le. Bon, après, je pose le vélo, je crois que je sais plus à combien je suis, mais je crois qu'il me fallait un marathon en deux. Enfin, je crois qu'il me fallait faire 2h56 en marathon plus transition pour faire premier du groupe d'âge, quoi. Donc
ouais, 2h56 voilà, après, en marchant, c'est chaud quand même.
Ouais, bah c'est ça, ouais. De toute façon, là, c'était mort, hein. C'est sûr que. Mais bon, voilà, j'ai fait la course tout pour me tester. En fait, j'avais envie de me situer et de me dire, ok, qu'est-ce que je vaux par rapport au niveau mondial en groupe d'âge, tu vois, dans ma catégorie. C'était un peu ça l'objectif, quoi. Donc, du coup, bah là, j'ai eu un élément de réponse, on va dire, quoi, tu vois. Après, j'ai pas fait le marathon, du coup. Donc, c'est sûr qu'après, tu vois, je peux pas savoir qu'est-ce que j'aurais fait sur le marathon dans les conditions de Lille, tu vois, parce que forcément, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose de faire un marathon en 2h42 dans des bonnes conditions et d'en faire un sous 40 degrés, tu vois. Enfin, c'est pas du, enfin 40, j'exagère un peu, en vrai c'était plutôt 35, tu vois, mais 35 avec un soleil qui tape quand même vraiment fort, ouais, tu vois, c'est quand même ouais, c'est un truc que je saurais pas, tu vois, enfin que je le saurais peut-être si un jour j'y retourne, mais tu vois, c'est pour l'instant c'est pas prévu encore, quoi.
Bon, alors, du coup on aura bien compris, tu y vas, bon, tu y vas pour y aller, pour tester, pour voir un peu le niveau. Alors effectivement, t'as pas fait le marathon, mais ça te situait quand même, enfin pour gagner ton groupe d'âge, ça te situait dans des choses que tu aurais pu faire, hein, 2h58 au marathon. Il y avait des chances que, en gros, si tu te situais, et je pense qu'à ce moment-là, tu te situais dans le top 5 mondial, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que je me dis, tu vois. Après, bon, tout reste à prouver, tu vois, Enfin, c'est sûr que tu vois, enfin c'est toujours prétentieux de dire, enfin ce qui aurait été possible avec des si, quoi, tu vois. Donc mais en tout cas voilà, j'y suis allé, je me suis, enfin j'ai fait ce que j'avais à faire sur la course, tu vois, j'ai pris les informations et on va dire que ça me sert pour moi, quoi. Après sur le CV il y a rien, tu vois, mais pour mon information personnelle, on va dire, ça me donne des éléments, quoi. Mais du coup après donc après bah forcément fin de saison, tu vois, fracture de fatigue. La saison était finie.
C'était où ta fracture de fatigue d'ailleurs?
Alors c'était au. Bah, je peux pas trop te montrer à la webcam, je suis pas assez souple. mais c'était en bas du tibia. Enfin c'était sur l'arête du tibia droit, côté intérieur, tu vois. En bas du tibia, près, un peu au-dessus de la malléole en fait. Et tu vois cette fracture de fatigue, elle a vraiment duré longtemps. Donc tu vois fin 2022. donc là je me projetais du coup. Enfin je reviens d'Hawaï, donc là l'objectif c'était guérir de ma fracture. Et ensuite me projeter sur une saison 2023 où là je ferai la saison en pro. Donc tu vois là j'avais demandé à la Fédé l'attestation, tu vois, pour pouvoir faire les courses en pro, tu vois, ce qui m'avait donné. Donc tu vois j'avais l'attestation pour 2023 du coup. Donc là voilà, là l'objectif c'était vraiment faire ma première saison sur les courses à la belle en pro en 2023, quoi. Et en fait, tu vois, ma fracture de fatigue, elle a duré, et en fait, je m'en suis remis que j'ai recommencé à courir qu'en octobre 2023 finalement. Et du coup, j'ai fait une saison off en 2023, enfin une saison off en triathlon. Après, tu vois, j'ai quand même fait quelques petits trucs. Bon, je t'en parlerai après, du coup. Mais du coup, ouais, en fait, 2023, si tu veux, au début, je projetais une reprise. Normalement, si tout allait bien pour ma fracture, je projetais une reprise de la course à pied vers février-mars 2023. Sauf que du coup, bah, donc arrivé en février-mars, le médecin, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin, le médecin qui me suivait, le médecin du sport qui me suivait pour ma fracture, il m'a dit, vous n'avez pas couru depuis Hawaï, etc. Là, je lui dis, ça fait un peu plus de 4 mois que j'ai pas couru. Il m'a dit, ouais, bah, du coup, c'est bon, là, vous pouvez y aller, quoi. Et du coup, moi, j'étais trop content, tu vois. Donc, du coup, j'y suis allé, quoi. Mais en fait,
donc, tu cours 40 bancs.
Non, franchement, j'ai quand même fait une reprise progressive, tu vois. Après, honnêtement, peut-être pas aussi progressive que ce que j'aurais dû faire. Mais quand même, j'ai quand même commencé par des petits footings. Tu sais, j'ai commencé par des 3-4 bornes. Hein. J'ai pas commencé par faire un 20 bornes direct, quoi. Mais je pense que, franchement, en fait, peu importe comment je reprenais, à ce moment-là, la fracture, elle était pas consolidée. Donc, même si j'avais fait une reprise plus progressive, en fait, ça aurait quand même pété, tu vois. Et en fait le problème c'est que j'ai pas refait d'examen plus poussé, quoi. Et tu vois, c'est un peu là que je me dis c'est con, parce que j'aurais préféré que le médecin il me dise on va refaire un examen pour contrôler.
On va faire une scintigraphie, on va s'assurer que tout est réglé.
Exactement. Je n'osais pas parler de scintigraphie, je n'étais pas sûr que tu connaisses le terme, enfin le principe. Tu vois.
Je me suis fait une fracture de fatigue aussi qui m'a obligé à reporter mon défi que j'ai réalisé cet été en 2023. Mais sinon, je vois ce que c'est et je pense que dans nos auditeurs, les gens savent bien. En gros, c'est un peu comme une radio, mais avec une injection de liquide radioactif.
Ouais,
et donc, on regarde où est-ce que ça réagit. Ouais. Et s'il y a une fracture de fatigue, contrairement à une radio où on la voit quasiment jamais, la fracture de fatigue, là, avec l'isotope qui est réactif, on voit où est-ce qu'il y a une lésion dans l'os.
Ouais, exactement, j'aurais pas dit mieux. ouais, c'est ça, ouais. Du coup, le médecin m'a pas fait refaire de scintigraphie avant de me dire de reprendre. Parce que je trouve un peu idiot, parce que tu vois, du coup, j'ai repris sur un os qui était pas bien réparé, alors que tu vois, aussi bien, on aurait fait une scintigraphie, on aurait vu que c'était pas consolidé, et on aurait dit, on reprend en mai, tu vois, peut-être qu'en mai, j'aurais fait une bonne reprise, et j'aurais peut-être pu vraiment faire des courses, tu sais, vers août, quoi, par exemple, tu vois, enfin. Mais du coup, en fait, en mars, du coup, vu que j'avais repris, tu vois, j'ai recommencé à courir, tu sais, au début, pendant 2 semaines, j'avais une petite gêne, mais ça allait. La 3e semaine, ça commençait à être un peu bizarre. Et la 4e semaine, là, je commençais vraiment à avoir mal. Et du coup, là, au début, tu vois, les 2 premières semaines, petite gêne, je m'inquiète pas trop, parce que je me dis, j'ai pas couru depuis 3 mois, enfin, depuis 4 mois même. C'est un peu normal que je sois pas, enfin, que j'ai des petites gênes au début, quoi. Après, 3e semaine, voilà, là, ça commençait à être un peu bizarre, tu vois. Donc j'envoie un message au médecin. Donc là, il me dit que tant que la douleur est pas aiguë, je peux continuer, quoi, tu vois. Après, du coup, tu vois, moi, je me dis, bon, en soi, c'est ce que j'avais envie d'entendre, hein, tu vois. J'étais très content d'entendre ça, parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était qu'on me dise, vas-y, mec, continue. T'es sur la bonne voie, ça va le faire, tu vois. Moi, c'était ce que j'avais envie de croire, quoi. Du coup, je continue. Mais là, la 4e semaine de reprise, j'avais quand même, là, je sentais que c'était vraiment pas bon, quoi. J'avais mal, quoi. Et du coup, je lui dis, pour le coup, ça le fait pas, j'ai mal et tout. Et du coup, on a refait une scintigraphie. Et on a vu effectivement que l'os n'était pas encore bien consolidé. Et du coup, ça a reporté, on a remis 4 mois off, 3 mois. On a remis 3 mois avant de refaire une scintigraphie au bout de 3 mois pour recontrôler. Puis ensuite au bout de 4 mois et demi, quoi, si tu veux. Bref, en gros, tu vois, au bout de 3 mois, ça m'a amené en juin, début juin, c'était toujours pas bon. Enfin, ça commençait à s'améliorer, mais c'était pas bon à 100%. Ensuite, on en a refait une, mi-juillet, il y avait pas eu beaucoup d'évolution, c'était toujours pas bon à 100%, c'était un peu mieux, mais il y avait encore un petit truc, tu vois. Et du coup, tu sais, à mi-juillet, il y avait encore un petit truc, je me dis, de toute façon, là, la saison 2023 c'est morte, enfin j'ai pas le temps de refaire un cycle pour refaire un niveau à pied, et puis tu sais je vais pas aller au charbon maintenant pour faire juste une course fin novembre, si tu veux, et puis donc je me dis 2023 c'est mort, et du coup là j'ai refait une scintigraphie, du coup cette fois-ci pour le coup en octobre, donc assez longtemps après, et là c'était bon, et du coup en octobre j'ai vraiment fait une reprise qui a été concluante cette fois-ci, quoi. Et puis là aujourd'hui je cours depuis maintenant je sais pas, ça doit faire peut-être entre 15 et 20 semaines, quoi, que j'ai repris, quoi. Et puis là ça se passe nickel, hein. Franchement je suis très content là de ce que je fais à pied pour l'instant. Après je reste prudent, mais tu vois le niveau est quand même le niveau est vite revenu, donc ça c'est vraiment cool pour l'histoire.
Waouh, impressionnant. Vous avez pas des vaches en Bretagne?
Ouais, mais tu sais que j'ai regardé un peu ce qu'il fallait manger pour éviter les fractures de fatigue.
Ouais, non, mais le lait c'est une connerie, on est d'accord, hein, mais voilà, c'était juste pour déconner.
Moi ça sert à rien. Ouais.
Non, par contre les amandes, ouais, c'est une grosse source de calcium, mais bon.
Les amandes, j'en mange à balle, hein. je mange beaucoup d'amandes. Donc ça je pense que j'étais pas carencé en amandes. D'ailleurs en amandes pour le stationnement aussi j'en prends pas mal. C'est pas les mêmes amandes, mais j'en prends un peu trop en ce moment d'ailleurs.
Bon, on va passer là-dessus. Bah écoute, il faut pas se déplacer en voiture, faut se déplacer en courant, comme ça en même temps tu maximises ton entraînement.
Ouais, c'est clair. Ouais. Après bon, tu sais, quand tu vas donner des cours, c'est compliqué de courir avec son sac à dos, tu vois. C'est pas terrible. Ouais, puis si t'arrives tout transpirant, tu vois, c'est pas génial non plus, quoi.
Ouais, c'est pas l'idéal, à moins d'avoir des élèves qui soient sportifs, mais ça c'est encore un autre sujet. Et donc du coup 2024, ce sera ta première saison en pro?
Bah du coup, c'est ma première, ouais, ce serait ma première saison pro, ouais, effectivement. Ouais. Du coup, tiens, je voulais juste te parler un peu de ce que j'ai fait en 2023, du coup, pour combler un peu mon, parce qu'il y a un truc pas mal à ce niveau-là, c'est que, bah tu sais, en 2023, j'ai fait les 7 majeurs, tu vois, en vélo. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu, quoi. Et enfin, pour le coup, tu vois, si je trouve un avantage d'avoir eu ma fracture de fatigue, c'est que ça m'a permis de faire ça. Et c'était vraiment une grosse expérience, quoi. Je sais pas si toi, t'as déjà fait un truc de ce style-là, ou si tu connais un peu le parcours. Hein.
Bah, on a eu quelques invités qui l'ont fait. Je connais un peu. Si les auditeurs voient pas trop ce que c'est, bon, déjà Google, c'est un petit peu tout. Et puis sinon, regardez un petit peu sur les invités qu'on a eu, notamment Xavier Massard. Mais vas-y, je te laisse nous en parler rapidement, okay, de ces 7 majeurs.
Ouais. Bah alors, moi je suis un néophyte, hein, tu vois, de l'ultra cyclisme. Mais tu vois, en fait, je commençais à m'y intéresser parce que tu vois, j'avais vu que j'étais blessé à pied. Moi, je me dis qu'est-ce que je peux. Enfin, tu sais, j'avais aucun problème pour rouler, quoi. Et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour remplir un peu ma saison. Et tu vois, je commençais à regarder un peu des courses comme la Race Cross France ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est, bah tu vois, c'est une discipline, l'ultra cyclisme, qui m'intéresse beaucoup, tu vois. Et franchement, je pense que quand j'aurai fait ce que j'ai à faire en triathlon, je pense que je me.
Quand t'auras fini tes conneries, c'est ça.
Que je me mette à. Ouais, c'est fort probable que je me mette à l'ultra, tu vois, en vélo, tu vois, c'est. Mais du coup, ouais, je cherche un truc sympa à faire en vélo, tu vois, en ultra. Enfin, en ultra. Après, tu vois, les 7 majeurs, en soi, c'est un peu la limite de l'ultra, parce que tu vois, enfin, moi, je l'ai fait en moins de 24 heures, tu vois, donc j'ai pas fait de plus de 24 heures sur le vélo non plus, tu vois. Donc, on va dire, c'est un peu le début de l'ultra. Mais tu vois, je trouvais ça excellent à faire. Tu vois, t'as 7 cols. En tout, le parcours, il fait 365 bornes, je crois. Et t'as genre 11 000 de D+, quoi. Et tu vois, je trouvais ça dingue, en fait, comme parcours. Et ouais, du coup, je me suis lancé là-dessus en fin août. Ouais, franchement, bah, tu sais, j'ai fait plein d'erreurs, quoi, tu vois, en termes de gestion et tout. Enfin, tu vois, genre, pour te donner une idée, j'ai mis 22h43 à le faire. Avec les pauses. Et pour te donner une idée, au bout de 8h30, j'étais à la moitié du parcours, quoi. C'est pour te donner une idée de la gestion, tu vois. De la gestion de l'effort.
Ouais, non, mais c'est comme le mec sur Ironman qui se dit, bon, de toute façon, si je pose le vélo avec 7 minutes d'avance, ça va, je suis tranquille. Et au final, un mec qui court 10 minutes plus rapide que lui derrière. Ok, normal.
Ouais, mais tu sais, en fait, j'étais parti avec uniquement des. Enfin, en fait, j'étais parti avec uniquement des gels et des barres, tu vois. Que du sucré, quoi. Et en fait, franchement, j'ai trop tardé avant de prendre un vrai repas. Et en fait, quand j'étais arrivé, je me rappelle, j'arrivais en haut de la Lombarde, c'était le 5e col. Tu vois, j'étais en PLS, quoi. Enfin, franchement, j'avais plus rien, j'avais plus de jus. Du coup, je suis descendu à Isola, j'ai pris un bon panini avec des frites. Et là, c'est marrant parce que tu vois, à ce moment-là, j'ai fait une petite sieste de genre une heure. Et quand je suis reparti, il était genre 20h. Et il me restait à faire plus que 160 bornes avec 4000 de D+, quoi. Et tu vois, ça, c'était la plus longue sortie que j'avais jamais fait avant, quoi. Et enfin, en montagne, hein, je parle. Et tu vois, je fais ça, tu fais ça à 20h, hein. Tu vois, tu pars pour faire ça à 20h, alors que t'es déjà dans le mal. Et de nuit, quoi. Et non, tu sais, c'est le genre de truc, enfin, moi, c'est vraiment le genre d'expérience où, tu sais, j'adore parce que tu sais pas de quoi t'es capable, en fait, et tu te surprends, tu vois, dans ta capacité à surmonter la fatigue, quoi. Donc ouais, franchement, ça, c'était vraiment une super expérience. Enfin, c'était clairement mon meilleur souvenir de 2023, quoi. Globalement, 2023, ça n'a pas été une année facile sur le plan sportif, mais si je dois garder vraiment un bon souvenir, un très bon souvenir, c'est ça, c'est les 7 majeurs, quoi. C'était vraiment top. Puis les paysages, c'était vraiment incroyable, quoi.
Ouais, je veux bien te croire. Ça doit être quelque chose qui dépayse. Là, il n'y a pas eu d'aléa climatique sur tes 7 majeurs. Non, parce que t'étais tout seul, c'était pas une compète.
Non, mais figure-toi que, je suis abonné à la canicule, hein, ou alors à la tempête. Non, il y a eu quand même des petits, il faisait quand même vraiment chaud, pendant que je l'ai fait. Franchement, je me rappelle les vallées en Italie. Ouais, tu sais, dans les fonds de vallée en Italie, tu vois, il faisait un bon 36 degrés. Franchement, il faisait vraiment chaud, quoi. Et par contre, tu vois, après quand je suis passé à la Bonnette, sur le sommet de la Bonnette de nuit, bah là, tu vois, j'avais 4 degrés, quoi. Donc peut-être j'avais quand même un gros delta, quoi. Mais tu vois, finalement, bon, les conditions, ouais, comme ça, je trouve qu'il faisait quand même vraiment chaud. Mais c'était pas forcément les conditions les plus optimales que j'aurais pu espérer. Mais finalement, c'était pas si dégueulasse parce que une semaine après, tu vois, mais incroyable, mais une semaine après, dans l'Isoard, il y avait de la neige, quoi. Mais c'est complètement absurde, quoi.
Genre, ouais, mais bah, écoute,
j'ai eu 30 degrés.
On a déjà vu des éditions d'Embrun, donc le 15 août, hein, avec la neige au sommet. Hein.
Ah ouais, la neige.
Donc c'est pas étonnant, hein, quand on parle d'altitude, qu'on soit en été ou en hiver, c'est pas si étonnant que ça. Mais ouais, non, franchement, bravo. Donc à une semaine près, tu tenais ton record de déchaîner les éléments à chaque fois.
Ouais, bah, je pense que là je l'aurais pas fait, hein, tu sais, si j'étais parti avec la neige, tu vois, j'aurais pas fait le, je me serais pas lancé dans le, dans là, je me serais pas lancé là-dedans avec de la neige sur la route non plus, quoi. Mais bon, voilà, c'était voilà, super expérience en tout cas. Je le recommande pour ceux qui ont un peu de, pour ceux qui sont blessés à pied, s'il y en a qui ont une fracture de fatigue et qui cherchent à, qui aiment bien faire des Ironman d'habitude et qui cherchent un bon petit défi avec juste du vélo, bah franchement les 7 majeurs c'est vraiment top.
Ouais, une belle aventure. Écoute, ce que je te propose, c'est que s'il y en a qui se posent la question de comment on fait, où est-ce qu'on trouve la trace, etc., qui te contactent, soit en passant par nous, soit directement sur tes réseaux sociaux, je suis sûr que tu te feras un plaisir de leur expliquer, puis le meilleur moment aussi pour aller éviter la tempête ou la canicule.
Ouais, carrément, bah ouais, bah, enfin, la trace, elle est sur mon Strava, hein, je crois que la date, c'était le 24 août, je crois. 24 août, ou entre le 22 et le 24, je sais plus exactement. Mais ouais, faut chercher entre le 22 et le 24 août 2023, voilà, c'est dans mon, ou alors sinon faut regarder juste dans mon profil Strava, statistique sortie la plus longue. Ouais. J'ai pas fait plus long que ça, donc alors il y a directement le lien vers l'activité.
Ça marche. Ouais, et du coup donc 2024, ça sera ta première année en pro. Qu'est-ce que, voilà, t'as prévu de beau cette année?
Alors je vais commencer par le Frenchman. Enfin, alors bon, je vais commencer en fait par le premier truc, ça va être un 10 km à Nantes sur le marathon vert de Nantes. Là, sur le marathon de Nantes, il y a un 10 km en fait sur l'épreuve. Donc ça va être juste un petit 10 km, mais je le fais en mode, enfin, je serai pas préparé pour ça, mais tu vois, ça va être la première course, ça va être le premier dossard officiel, on va dire, de la saison, quoi.
Tranquille, un petit 10 km tranquille en 32.
Ouais, pour le temps, je sais pas combien je ferai, tu vois, mais on verra bien, tu vois, mais c'est, enfin, oui, je verrai bien. Bon. Pour l'instant, j'ai pas envie d'annoncer de chrono parce que si j'annonce un chrono et que je vais me mettre de la pression pour rien, tu vois. Mais ouais, on verra bien pour le chrono. Et, ouais, donc après, premier triathlon, donc là, c'est, enfin, là où ça va vraiment commencer, ça va être le Frenchman. Donc là, je suis inscrit sur le L du Frenchman. J'hésite à passer sur l'XXL, je suis pas sûr encore. Mais voilà. C'est une question que je me pose. Mais pour l'instant, je suis sur le L en tout cas. Après, du coup, 4 semaines après, je ferai les France de longue distance. Donc ça, c'est à Vichy le 8 juin. Et ensuite, du coup, bah là, je vais commencer à faire. Là, je vais commencer à faire des foules. Donc, je pense que je vais commencer par. Enfin, j'ai pas encore décidé, mais je pense que mon premier full, ça va être soit Vitoria en Espagne, quoi.
Vitoria Gasteiz, ouais. À côté de Bilbao, ouais. À 2 heures de Bilbao.
Voilà, c'est ça. Ou soit Embrun.
Ouais, c'est
et
pareil.
Après, pour la suite.
C'est pareil. Franchement, des conditions et du dénivelé, mais... c'est pareil. Non, c'est ironique, évidemment. Vitoria, c'est quasi plat.
Non, mais je sais, mais tu vois, non, mais les deux courses me. Enfin, tu vois, en fait, le truc, c'est que. Tu vois, Embrun, ça me plaît bien parce que c'est un. Enfin, en fait, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être un peu plus tard. Donc, tu vois, j'ai un peu plus de temps pour m'y préparer après les France de longue distance. Et aussi le balin et du coup l'inconvénient c'est aussi que c'est plus tard, quoi, parce que du coup l'avantage c'est que si je fais plus tôt Vitoria, bah, je peux embrayer plus tôt aussi sur un autre plus tard dans la saison, quoi.
Là pour toi, si jamais tu devais faire une perf qui pourrait te permettre de te qualifier pour Hawaï, ça se passe comment pour ta première année en pro?
Oh bah ça change rien par rapport au fait que ce soit la première ou pas. En fait c'est à chaque course, tu vois. C'est à chaque course, tu fais une course en pro, t'as X slot distribué. Donc j'ai même pas regardé ce que c'était sur Vitoria par exemple. Bah, Embrun déjà c'est mort. Enfin, tu sais, Embrun c'est pas circuit.
Oui, Embrun c'est pas Ironman, donc possible. Ça c'est mort. Mais oui, ça se jouerait que sur Vitoria, sur un label Ironman.
Voilà, c'est ça. Donc Vitoria, bah, j'ai pas regardé combien il y avait de slots, mais imaginons, je dis un truc au pif, imaginons qu'il y a 3 slots par exemple. Je sais pas si c'est le cas. Je pense que ça va être entre 3 et 4, je pense, un truc comme ça. Mais imaginons qu'il y en ait 3. Bah du coup en fait tu vois, si tu fais par exemple 6e pro et que il y en a 3 devant qui ont déjà leur slot, bah t'as un slot, quoi, tu vois. En fait c'est faut faire bah si t'es 3e et qu'il y a 3 slots, t'es sûr d'être pris. Et si tu fais pas troisième, bah ça va dépendre des mecs, des gens devant toi, est-ce qu'ils ont déjà leur saut ou pas, quoi.
Bien sûr.
Après, moi, je t'avoue, je suis pas trop, enfin, je me fais pas une fixette sur Hawaï, hein. C'est pas mon objectif, spécialement cette saison. En fait, moi, tu vois, pour moi, une saison 2024 qui serait validée, c'est d'avoir fait une première course en pro et l'avoir bien réussi. Par rapport à mon niveau, en tout cas, tu vois. Après, tu vois, si je fais 25e et que j'ai fait la course de ma vie, bah, tu vois, je serais content. Enfin, tu vois, après, ça dépend des autres, quoi. Moi, ce que je veux, c'est surtout faire une perf qui reflète mon niveau, quoi. C'est surtout ça que j'ai envie de faire, quoi. Donc voilà, pour moi, l'objectif de 2024, c'est vraiment déjà valider une première course en pro, la faire du mieux que je peux, et puis si possible une deuxième et si possible une troisième, quoi, tu vois. Donc après, tu vois, je prends les courses les unes après les autres, mais tu vois, j'ai pas envie de faire l'erreur que j'ai fait avant, c'est-à-dire d'avoir trop d'objectifs en tête, du coup de trop m'éparpiller, de vouloir caser 15 objectifs sur une année, tu vois. Enfin, en fait, tu vois, là, je me dis, je fais un objectif, après je pense à la suite, tu vois. Enfin, je fais vraiment étape par étape. Et donc voilà, pour l'instant, la première étape là, ça va être les France, le Frenchman avant. Donc le Frenchman, c'est plus remettre le pied à l'étrier. Pour l'instant, je vise vraiment mon pic de forme sur les France. Et après les France, on verra, tu vois. Et après, du coup, quand j'aurai fait les France, là, je me dirai, est-ce que je fais Vitoria ou est-ce que je fais Embrun. Peut-être que je ferai encore autre chose, hein, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est plutôt les deux courses auxquelles je pense. Et puis après ça, bah, je verrai pour ensuite une autre course en septembre, octobre, et pourquoi pas une course en novembre, tu vois. Ça va vraiment être au fil de l'eau, quoi.
Rapidement, parce qu'on avance un peu quand même sur le timing.
Ouais.
Comment on finance tout ça? Est-ce que ce néo-statut de pro te permet de financer un petit peu ta carrière? Est-ce que ça t'a permis d'aller chercher des sponsors? Enfin, comment on finance tout ça?
Alors, pas du tout. Moi, pour l'instant, en fait, bah, déjà, le statut de pro, c'est... Enfin, en fait, tu vois, c'est juste une attestation que la Fédé te donne pour faire des courses professionnelles, tu vois. Mais en fait, t'as aucune aide de la Fédé ou d'Ironman. Enfin, c'est à toi de te débrouiller tout seul, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas de sponsor à l'heure actuelle. Après, bah, forcément, je ferme pas la porte, hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas beaucoup cherché. Bah, parce qu'en fait, quand tu passes toute une saison avec une fracture de fascie, tu vois, c'est, bah, tu sais pas trop quand tu vas reprendre, tu vois, donc t'as pas trop d'objectifs clairs à annoncer, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois, donc ouais, après, c'est sûr que c'est l'objectif, tu vois, pour moi, l'objectif à moyen terme, c'est d'avoir, en fait, ce serait de, tu vois, d'avoir, de pouvoir, fin, de réussir à financer ma saison de triathlon avec des sponsors, que mes primes de course, elles me servent à me faire un petit bonus en plus sur mon salaire, et que mon salaire de mon job courant, on va dire, il me serve à financer mon loyer, tu vois, l'essence, etc., ma bouffe, quoi. Enfin, tu vois, les frais de vie classiques, quoi.
Ouais, et cotiser pour la retraite.
Ouais, accessoirement aussi, ouais, oui, c'est sûr. Après, moi, j'y pense pas beaucoup, tu vois, je suis pas non plus. C'est vrai que c'est bien aussi de cotiser pour la retraite, ouais.
au moins comptabiliser les trimestres, quoi. Parce que c'est vrai que si tu commences à comptabiliser les trimestres à 40 ans, ça commence à être chaud, hein, pour tenir jusqu'à, pour avoir la retraite complète.
Ouais, peut-être. J'avoue, franchement, en fait, j'en sais rien, tu vois, parce que je me suis même pas trop projeté dans la... je me suis même pas projeté sur la question, que mais ouais.
Non, mais écoute, merci pour ce partage. C'est bien parce qu'on a refait un petit peu avec toi toute cette histoire, avec d'un côté le Covid qui a un petit peu freiné les ambitions, mais pour tout le monde, et puis après la fracture de fatigue. Moi, je te dis, je suis passé par là, donc je sais ce que c'est. Bon, moi, c'était pas 6 mois. Hein. Moi, c'était 8 semaines et c'était au métatarse, donc c'était peut-être un petit peu moins handicapant. On peut toujours courir avec un on peut toujours courir avec un doigt de pied en moins. par contre, avec un tibia en moins, c'est plus chaud quand même. Mais ouais, non, je comprends tout à fait. Écoute, il y a une dernière question que je pose à tous mes invités. Elle est tout simplement liée au nom du podcast qui s'appelle Devenir triathlète. Donc, Victor, à ton avis, comment devenir triathlète?
C'est dur comme question. Non, bah après, c'est. Bah, tu vois, je donnerais deux conseils, enfin, en fonction de. À deux catégories de personnes différentes, quoi. Tu vois, moi, tu vois, une erreur que j'ai fait quand je me suis mis au triathlon, dans une perspective de performance, tu vois. Là, je parle vraiment aux gens qui visent vraiment de la performance, c'est de se mettre à la natation trop tard, quoi. Parce que tu vois, en fait, au début, quand tu commences le triathlon, ce qui te fait le plus progresser, c'est de faire du vélo et de la course à pied, quoi. Et tu vois, la natation, ça demande beaucoup de travail pour pas beaucoup de progrès, enfin pour des progrès qui sont assez lents et qui se ressentent pas beaucoup sur le chrono final, quoi. Mais par contre, je trouve que ça joue vraiment un gros rôle quand tu commences à jouer avec des mecs de haut niveau, on va dire. Bah là, tu vois, la natation, ça commence vraiment à devenir important, quoi.
Ouais, et c'est sûr que sortir en 1h versus 1h15, c'est pas la même.
Bah c'est ça, et tu vois, moi je m'en suis aperçu un peu tard en fait, quoi, parce que bah tu vois, on va dire que ça fait 7 ans que je fais du triathlon, et ça fait que 2 ans que je nage de manière vraiment régulière, quoi. Du coup, tu vois, bah si je devais donner un conseil à quelqu'un qui commence le triathlon et qui a une ambition de de performer vraiment sur le long terme, bah je lui dirais, enfin, quitte à progresser un peu moins vite au début en course à pied, en vélo, mets-toi direct à la natation, parce que en fait, peut-être en vélo, en course à pied, tu vas peut-être beaucoup progresser au début, mais après ton niveau il va un peu se tasser, alors que la natation, bah c'est en fait c'est là que tu vas, si tu t'aperçois trop tard que t'as, enfin si tu t'aperçois, enfin des fois c'est un peu, tu t'aperçois un peu trop tard et tu te dis, putain, j'aurais dû bosser la nat plus tôt en fait, quoi. Donc ouais, moi c'est un peu un conseil que je donnerais, c'est commencer à la natation. Mettre vraiment autant d'intensité en natation qu'en course à pied et en vélo dès le début, quoi. Pour quelqu'un qui vise d'être performant sur le long terme. Après, pour quelqu'un qui vise juste de se faire plaisir, pour le coup, j'aurais pas du tout le même discours, quoi. Parce que tu vois, en fait, tu as quelqu'un qui vise soit d'être finisher, soit d'avoir un bon niveau amateur, tu vois. Bah, franchement, c'est beaucoup moins important d'être très bon en net, quoi. Donc, tu vois, pour le coup, c'est. Moi, je dirais surtout à ces gens-là, je leur dirais je pourrais dire des trucs pas originaux que tout le monde dirait, tu vois, il faut que je trouve un truc original. Qu'est-ce que je pourrais dire franchement, en vrai, ça paraît très classique ce que je vais dire, mais vraiment y aller progressivement, quoi, tu vois, mais je pense que c'est le conseil que tout le monde va donner, tu vois, donc, mais juste prendre les choses petit à petit. Pas forcément se comparer à des gens qui en font depuis 10 ans, quoi, mais juste se comparer à son soi d'il y a 6 mois, quoi. Et tu vois, vraiment apprécier les progrès qu'on fait mois après mois. Et puis aussi peut-être tu vois, vraiment pas trop se prendre la tête sur tu vois, sur le matériel, ou tu vois, je pense que ça sert à rien d'avoir un matériel de pointe quand on débute, quoi. Je pense qu'il faut, enfin tu vois, c'est ce qui est important, c'est surtout de, je pense qu'il vaut mieux investir, tu vois, si quelqu'un devait débuter le triathlon avec une certaine enveloppe, bon après si jamais c'est l'enveloppe c'est 1 million, tu vois, je dirais bon bah prends tout, quoi, tu vois, mais
vas-y.
Et c'est une enveloppe un peu plus restreinte, je dirais investis dans une licence pour être dans un club, pour avoir des gens avec qui t'entraîner. Investis ensuite dans un coach, parce que c'est avoir un coach, c'est quand même un gros accélérateur de progression, surtout quand on débute. Et je dirais aussi investir dans des stages, quoi, tu vois. Partir en stage de temps en temps, ça fait quand même vraiment du bien, ça permet de changer de décor. Et tu vois, pour moi, je trouve que sur la progression long terme, c'est plus important que d'avoir un vélo à 10 000 euros, quoi. Même si après, je suis d'accord que quand tu arrives à un certain niveau, effectivement, bah, le matos, ça commence à être important, tu vois. Ça, je vais pas dire le contraire. Mais je pense qu'il y a tellement de marges de progression qui viennent avant le matériel que, tu vois, je trouve que c'est dommage, en fait, de foncer directement sur le matériel alors qu'il y a plein de trucs sur lesquels on pourrait investir avant qui seraient plus rentables, quoi. C'est mon avis, quoi. Après,
ah bah ça, là encore une fois, je ne peux que valider. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je n'ai jamais pu monter sur Ironman parce que j'ai dû déclarer forfait à une semaine du seul Ironman que j'aurais dû faire. Et du coup, je me suis toujours dit, je ne porterai jamais de fringues ou autre siglé Ironman tant que j'aurais pas fini mon premier Ironman. Donc ça, c'était pour la petite anecdote, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a écrit dans le bouquin avec Olivier et les 5 autres personnes, les 5 autres co-auteur. Moi, j'avais en charge la partie matérielle, et la première chose que je dis, c'est déjà investis sur toi et investis sur un accompagnement, plus que d'investir sur un vélo, comme tu dis, à 10 000 balles, quoi. J'ai fait une checklist, en gros, pas une checklist, un peu la checklist du triathlète amateur. Pour commencer, en gros, t'as besoin d'un budget à 300 balles, quoi. Une paire de chaussures, et t'as pas besoin de prendre des chaussures carbone à 200 balles. Un vélo, même que tu vas aller acheter d'occasion, ou le vélo de papy que tu vas récupérer dans le garage. Et puis le reste, c'est payer les entrées à la piscine et le déplacement pour aller sur la course, quoi. Donc
ouais, c'est ça.
Y aller avec parcimonie, ouais, et progression.
Ouais, c'est clair. Ouais, puis tu vois, je trouve que c'est tellement plus kiffant, en fait, de, tu vois, de progresser au début avec vraiment du matos de base. Et tu vois, petit à petit, année après année, faire évoluer son matos en même temps que son niveau, tu vois. Plutôt que de commencer directement avec full matos. Et en fait, au final, après, tu vois, c'est. Enfin, tu vois, t'as un peu grillé dès le début une cartouche progression, quoi, tu vois. Enfin,
Ouais.
tu sais, je trouve que c'est sympa, en fait, de se garder de se garder la cartouche matérielle, entre guillemets, pour progresser plus tard, quoi. Enfin, c'est vraiment pas le. Enfin, je suis d'accord avec. Enfin, je pense qu'on se rejoint là-dessus, hein, de toute façon, mais c'est vraiment pas ce qui est. C'est vraiment pas le. Ouais, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus indispensable pour démarrer, quoi. Après, j'avoue que 300 euros, quand même, c'est vrai que là, c'est restreint, quand même.
Non, mais écoute, quand tu
Faut.
veux démarrer le triathlon, évidemment, je ne te parle pas de commencer sur Ironman, mais si tu veux démarrer le triathlon, si tu veux faire un petit triathlon découverte, un sprint ou un truc comme ça, en fait, avec 300 balles, pour autant que tu aies déjà un vélo qui traîne quelque part, tu t'en sors. Alors évidemment, on sait que le triathlon, c'est relativement onéreux comme sport, et ce qui fait tout de suite monter les compteurs, bah, c'est le vélo. Un vélo de triathlon, on est à 3 000-4 000 balles minimum si on veut déjà un truc pas trop mal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si tu veux commencer, si t'as pas de velléité, si t'as pas d'ambition, si tu veux faire ton premier triathlon sans aller taper direct à Nice ou sur le Frenchman, bah 300-400 balles, ça suffit pour commencer, non?
Ouais, c'est clair. Je sais même pas qu'est-ce que j'avais moi, comme. Bon, tu sais, au début, mon premier Ironman, j'ai fait. Ma combi, c'était une Nabaiji. Mon vélo, c'était un vélo de route, tu vois, où j'avais mis des prolongateurs dessus. D'ailleurs, j'avais loué une paire de route 80 à l'époque pour l'occasion, tu vois. Je trouvais que mon vélo était trop beau avec une paire de route 80, tu vois. C'était un vélo un peu pourri, hein, mais c'était un vélo en alu, tu vois. Mais là, il était monté avec une paire de roues carbone de 80. Là, j'avais l'impression que c'était devenu une fusée. Et tu sais, j'avais même pas de trifonction, moi, pour mon premier Ironman. J'avais. Tu sais, je me changeais
À chaque transition.
si tu veux te taper un fou rire, regarde mes temps de transition sur le Frenchman, sur le premier Frenchman en 2017.
J'ai vu ça, j'ai vu ça.
Si tu regardes, t'as vu ça?
Ah ouais. Non, mais écoute, c'est bien parce
C'était
que
rigolo, quoi.
du coup, t'apprends non pas de tes erreurs, mais t'apprends au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai trouvé sympa dans cet échange avec toi, c'est qu'on a appris avec toi, on a vu un petit peu tout ce qu'il fallait pas faire. Et un peu ce qu'il faut faire. Et puis, nul doute que ta saison 2024, ta première saison en pro, ça va être une tuerie.
Ouais, bah j'espère. Après, voilà, moi je. Enfin, tu vois, c'est un truc sur lequel je. Enfin, tu vois, quand je te dis mon objectif de 2024, c'est déjà de faire une course en pro et de bien la faire, tu vois. Enfin, en fait, mon premier objectif, c'est surtout de réussir déjà à être consistant sur la durée, à faire mes entraînements, tu vois. Déjà, si moi je fais. Enfin, ce qui est en mon pouvoir, tu vois, c'est-à-dire faire. Enfin, être régulier à l'entraînement, faire ce que je prévois de faire tous les jours et. Et voilà, être constant dans la durée, tu vois. Déjà, bah, si à la fin de la saison, en regardant tous les entraînements que j'ai faits, je suis content de ça, déjà, tu vois, il y aurait déjà une première chose dont je serais fier, quoi. Après, du coup, bah, forcément, j'aimerais bien pouvoir performer en plus. C'est sûr que si tu t'entraînes et que tu performes pas, c'est pas le but, quoi. Mais du coup, ouais. Bah, normalement, après, tu vois, si tu t'entraînes, normalement. Ouais, tu vois, tu peux avoir un coup de moins bien sur une course, mais enfin, alors, si tu fais plusieurs courses, il y aura toujours au moins une course qui va bien se passer. Donc voilà, on verra. De toute façon.
Statistiquement, si tu multiplies le nombre de compétitions, il y en a peut-être au moins une qui devrait fonctionner.
Ouais, bah, j'espère. Hein.
En même temps, ça veut pas tout dire. Il y en a qui jouent au loto pendant 60 ans et puis c'est pas pour autant qu'ils gagnent.
Ouais, c'est sûr. Après, bon, la probabilité que
Mais là, il y a plus de hasard que l'entraînement, quand même.
Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin bon, tout ce que j'espère, c'est que, ouais, en vrai, franchement, s'il y a un truc que j'espère, c'est quand même vraiment de pas me refaire une fracture de fatigue, tu vois, que mon tibia, il va vraiment bien tenir toute la saison. Ouais, c'est vrai que si je dois repartir sur une fracture de fatigue, là, tu vois, moralement, ça va être dur, quoi. Bon, après, je me mettrai à l'ultracyclisme, hein, du coup, tu vois.
Ouais, ou pour revenir sur ce qu'on disait en blaguant en off tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, bah t'exploiteras tes diplômes et puis t'iras chercher, entre guillemets,
Ouais.
un vrai job.
Ouais, c'est ça. J'espère que je vais pas être obligé de faire ça.
Bon, en tout cas, Victor,
Ouais, je
c'était
rigole.
super sympa. Je te remercie pour cet échange. Je te remercie pour tout ce partage et puis tout ce que tu as bien voulu nous délivrer aujourd'hui. On te souhaite une bonne continuation dans les entraînements, de bonnes compétitions, évidemment, et puis bah, bon retour aux sources avec le Frenchman, parce que finalement, c'est là que tu as commencé. Donc, c'est là aussi où tu vas commencer ta saison de pro.
Ouais, c'est vrai que j'ai une belle histoire avec le Frenchman. Ouais, écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était super sympa cet échange. Et bonne continuation à toi dans tes projets.
Super.
Peut-être qu'on se verra sur une prochaine course.
Ouais, on verra. Mais moi avec un micro, moi je fais plus de vélo.
Ça marche.
Merci beaucoup. Allez, Victor. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.